Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du...
Attends, Gigi! Non, c'est bon.
Non, c'est bon!
Non, c'est juste quelques retours de Romain Grosjean, j'ai eu peur et non.
C'est bon. Tu exagères, il a fait un très bon premier tour.
Oui, non, mais voilà, non, mais c'est pour ça, c'est juste parce que je me suis rappelé qu'il y avait Romain Grosjean et je me suis dit, attention, peut-être que je...
Romain Grosjean, donc, qui est revenu pour ce Grand Prix de Singapour, à Singapour, bien évidemment. Donc, vous aurez reconnu Dino, bien évidemment, mais Dino, nous ne sommes pas seuls.
Non, nous sommes avec Zal.
Oui.
Bonsoir, Zal.
Bonsoir, Zal.
Bonsoir, Dino. Bonsoir, Shinji. Bonsoir aux auditeurs.
Mais non, mais prends la preuve que le SAV, ça n'est pas Zal. Ah, les bottes, Zal.
C'est pas ce que j'aurais dit, mais bon.
T'as vu comment je suis traité, Zal? C'est pas bien.
Bonsoir, sorry.
Alors, messieurs, comme d'habitude, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix de Singapour?
Dino, tu commences?
Un Grand Prix nocturne, donc, ouais. Avec de la nuit dans le ciel.
Tout à fait.
avec des voitures qui font le tour d'un circuit.
Tout à fait.
Non, c'était un Grand Prix. Moi, je l'ai trouvé assez intéressant. Il y a eu un peu de tout. Il y a eu de la stratégie, puis la stratégie a un peu volé en éclats avec les voitures de sécurité. Voilà, donc, quand il y a de la stratégie, généralement, on se fait chier au début de la course. Ce qui s'est passé.
On s'est fait chier au début de la course.
Voilà. Et puis après, il y a eu un petit moment de folie. Et puis, à la fin, on s'est un petit peu fait chier parce qu'on est sur un circuit urbain, etc. Mais le défi est beau aussi, donc, c'est ce qui est intéressant.
Ouais.
Et toi, Zal?
Moi, j'ai pas trouvé ce Grand Prix très folichon.
Très folichon!
Bah, comparé aux deux autres Grands Prix qu'on a eu juste avant, qui sont, mon duo préféré dans toute la saison, j'ai trouvé ce Grand Prix.
T'as pas choisi
peu...
de meilleur Grand Prix.
Mais en fait, le cadre, je le trouve beau, l'idée du Grand Prix nocturne, pourquoi pas, encore que, il y a des compromis à faire au niveau, environnement qui sont pas terribles, parce que, quand on voit la puissance d'éclairage qui est demandée, et je trouve que c'est pas en phase avec le contexte actuel. Mais au-delà de ça, c'est quand même un challenge parce qu'évidemment le circuit est difficile. Au niveau du pilotage, il n'y a pas le droit à l'erreur. Le contexte, la ville de Singapour, bon, c'est la jet set un petit peu en Asie. Après, c'est le contexte est bien, mais le circuit, je suis pas fan et le Grand Prix, je l'ai trouvé un petit peu terne.
Ouais. Bah là, entre guillemets là. La course est plus intéressante que la piste.
Oui, on peut dire ça.
Ouais. Oui, en fait, c'est surtout ce qui est intéressant. Moi, c'est je suis pas un grand fan de Singapour, mais je défendrai un peu à l'image du Hungaroring.
Moi, j'aime bien le Hungaroring.
Qui a sa personnalité. Ah, tu vois, c'est dit. Hein?
J'ai rien dit.
Non, mais voilà.
Il est fluide le Hungaroring. Contrairement au Singapour, c'est un circuit. Moi, je fais du simulateur sur Air Factor et le Hungaroring. J'ai beaucoup de plaisir à piloter dessus.
Mais en fait, je fais pas trop une comparaison sur les caractéristiques du circuit, mais surtout sur l'aspect unique qu'ils apportent à la F1. Le Hungaroring, c'est un circuit qui, qu'on le veuille ou non, reste unique en Formule 1, par ses virages et compagnie, par un ensemble de choses qui le rendent unique. Et Singapour, c'est pareil, c'est un défi unique. Effectivement, c'est 300 km sur un circuit urbain, par des températures très élevées, même la nuit, par un gros taux d'humidité. Enfin, on a vu les mecs, enfin, c'est la seule fois de la saison où on voit les pilotes en sueur.
Oui.
Avant même qu'ils montent dans la voiture, hein, attention. Et voilà, je trouve qu'il y a un vrai défi et c'est ce qui justifie un peu sa place. Peut-être même plus que la lumière. Je me suis surpris ce week-end à regarder, je sais plus quel, ça doit être les essais libres 1, et me dire, en fait, le circuit, il est pas mal non plus en plein jour. Donc, voilà, c'est vraiment plus le défi qu'il impose aux pilotes et aux mécaniques qui est intéressant. Après, le circuit en soi, il est technique, mais je suis pas un grand, grand fan. La moitié des virages, j'ai réussi à les négocier une seule fois sur F1 2011.
Non, puis le premier secteur, je trouve que ça va encore, mais bon, le dernier secteur, c'est des chicanes gauche-droite, droite-gauche se suivent.
Peu...
Et après, pour moi, le comble, c'est quand même cette chicane qui est en plein milieu du circuit, là, avec des grosses bordures. Ça, franchement.
Ah, la fameuse chicane 10.
La chicane Kimi Räikkönen.
On l'appelait la chicane physique là, un moment, mais. franchement, c'est un peu un scandale, cette chicane. Parce qu'au niveau du pilotage, elle n'apporte rien du tout.
Oh non, c'est vraiment un pif-paf, vraiment, ouais. Alors, messieurs, ce dimanche, nous étions le 23 septembre.
Oh merde, je suis désolé, Zal. On a eu plein de pépins techniques, mais pas celui-là. Il a quand même prévu un chiffre.
Eh oui, que s'est-il passé un 23 septembre? Eh bien, nous allons l'apprendre maintenant.
Le service après-vente de la F1... vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Et messieurs, cette semaine, le chiffre, retenez-le bien, pas retenez-le, ce chiffre, c'est 4928.
D'accord.
Est-ce que c'est un nombre d'objets ?
Non.
Est-ce qu'il tient dans la main ?
Non.
Est-ce qu'il est vert ?
Non.
Bon, je suppose qu'il y a une unité derrière, du coup, puisque c'est pas un nombre.
Non, pas une unité.
Pas une unité.
C'est une date ?
Non. Je ne fais pas encore des trucs en calendrier juif ou maya.
Non, mais ça aurait pu être une prévision, genre, je sais pas, la disparition d'une espèce pour 4228. Là.
Je ne suis pas maya.
Mais tu bourdonnes un peu, Cindy.
Hop. Est-ce que c'est un rapport avec un exploit historique ? Non.
Donc c'est pas des objets.
C'est pas des objets, non.
C'est pas des objets, c'est pas une unité. Enfin, il y a pas d'unité derrière.
Est-ce que ce sont des œuvres ?
Non.
Non.
Plus simplement.
Des molécules.
Non.
Des brevets.
Non.
C'est immatériel.
Ah non.
Complètement immatériel. C'est matériel. Ah, c'est des humains. C'est des animaux. Humains.
Oui, tout à fait. C'est des humains.
C'est des humains. Donc c'est 4228 humains.
4928.
4928 humains. Le plus petit pays du monde.
Ah non.
L'Arche de Noé.
Oui, l'Arche de Noé. Ça a eu lieu un 23 septembre.
Et nous étions là.
Est-ce que c'est un nombre de participants à un événement ?
Non.
Est-ce que c'est des gens qui étaient réunis dans un même endroit ?
Non, ils ne sont pas réunis au même endroit, normalement.
Normalement.
Mais ils ont un point commun.
Ah oui, ils ont un point commun.
Donc ça n'a pas de rapport avec la Formule 1, j'imagine ?
Non, on peut pas dire que ça a un rapport avec la Formule 1.
C'est des sportifs ?
Non.
Ça a un rapport avec l'automobile ?
On peut pas dire non plus que ça a un rapport avec l'automobile.
Avec les sports, avec les sports mécaniques. On peut pas dire non plus.
C'est-à-dire que si je vous dis oui, c'est vraiment très capillotracté. C'est pour ça.
C'est une manifestation ?
Non.
Un flash mob ?
Non. Pour être précis, en fait, le jour de la date concernée, ils n'étaient pas 4928. Maintenant, ils sont 4928.
En fait, oui, c'est une fédération qui a été créée un 23 septembre.
C'est pas une fédération qui a été créée.
Une association ou quelque chose de similaire ? Un groupement de personnes, en fait ?
Oui, en un sens, c'est un groupement de personnes, mais c'est un nom particulier, ce groupement de personnes.
C'est le nombre de gens qui ont voté... Non, non. J'allais faire une vanne politique, mais non. Je ne m'en passerai.
C'est le nombre de votants dont on a perdu les votes...
De Jacques Cheminade.
Oui, ça avait.
Non.
À peu près, à deux près.
L'important, c'est pas de savoir que le nombre, mais c'est plutôt quel est leur point commun.
Mais attends, tu nous dis au début, ils n'étaient pas 4928.
Oui. Et maintenant, ils sont 4928.
Est-ce que dans les 4928, il y a les mêmes qu'au début ?
Ah non. Non, je pense pas.
Parce qu'ils sont morts, c'est ça ? Donc ça veut dire que ça s'étale sur...
En effet.
Ça a été créé il y a longtemps, ça veut dire.
Ça, oui, tout à fait.
Alors. C'est une confrérie ?
Oui, on peut appeler ça aussi...
La confrérie de la saucisse de Morteau. Au début, ils étaient trois. Maintenant, ils sont 4928.
C'est pas une confrérie, c'est un autre type de regroupement.
La plus grande mêlée du monde ?
Non.
Du but, j'étais deux, puis après, bon, ils se sont dit, allez, les gars, on y va.
C'est
une religion ?
C'est des supporters ?
Non. Non, mais je pense qu'ils doivent beaucoup aimer ce qui les réunit.
C'est pas un rapport avec de la science-fiction ?
Là encore, c'est pareil, ça serait capillotracté. Mais en fait, tu vas voir que tous les trucs capillotractés, en fait, c'est le même lien.
Merde. Donc c'est le même lien, c'est que c'est un lien avec l'automobile et la science-fiction. Voilà.
Avec les sports mécaniques et la science-fiction, en fait.
Oui, mais étant...
C'est le nombre de fans de Star Wars qui aiment l'épisode 1 de Star Wars.
Non, pas du tout, pas du tout. Vous partez pas par là.
Le chiffre est beaucoup plus petit.
Est-ce que ça concerne un film ?
Non.
Un livre ?
Non.
Un disque ?
Non.
Un concert ?
Non.
Mais c'est... Est-ce que ces gens-là se retrouvent au moment d'un événement, enfin de...
Non, c'est même pas sûr qu'ils se soient tous retrouvés une fois au même endroit.
Mais est-ce que c'est un événement, est-ce qu'il y a un événement régulier qui les réunit ? Genre des réunions de séance, genre une réunion annuelle,
non,
d'université
non,
d'été.
Normalement, non. Ils réunissent pas les 4928 comme ça.
Est-ce qu'ils sont du même pays, les 4928 ?
Non.
Ah ouais, donc là, c'est quand même un truc international qui a été créé il y a longtemps, qui a un lien avec de la science-fiction et des sports mécaniques.
Tout à fait. Et je vous ai dit, hein, l'ASF et les sports mécaniques, mettez-le de côté, hein, c'est pas...
D'accord, bon, on va oublier ça, donc longtemps. Est-ce qu'on peut te demander des détails sur l'époque ?
Oui, c'est... Ah, je peux même vous donner la date, à la limite, ça vous avancera pas forcément. C'était le 23 septembre 1889.
1889. Ah, les amis de la Tour Eiffel?
Non.
Est-ce que c'est une entreprise, en fait?
C'est une entreprise.
Ah oui,
c'est pour ça que parler d'organisation.
On est passé à côté de ça depuis le
voilà,
début.
Voilà, c'est une entreprise.
On est allé dans les confréries, les associations et tout ça, mais
voilà,
c'est une entreprise.
Un constructeur automobile?
Non.
Est-ce que c'est un constructeur, qu'est-ce que c'est une entreprise qui a un lien avec la construction automobile?
Non.
Avec la SF?
Capillotracté.
Est-ce qu'ils ont été sponsors en Formule 1?
Pas à ma connaissance.
Donc ça, c'est ah, évident.
Ça réduit le champ des possibles. Attends, c'est une entreprise donc aujourd'hui qui aurait 4928 employés.
Voilà.
D'accord.
C'est quand même une grosse boîte, mais, internationale.
Mais qui n'en avait pas 4928 en 1889, vous avez compris, voilà.
Oui, un... General Electric?
Non.
Est-ce que c'est une entreprise qui produit des engins ou des choses de ce genre-là?
Oui,
ils
construisent des biens matériels techniques, oui.
Apple?
Ah non, c'est pas aussi vieux. Steve Jobs, il
bon,
pas aussi...
ils sont capables de nous faire savoir que, de dire, oh non, non, on était déjà là à l'époque. Et ils vont déposer des brevets sur des trucs des années 1890, hein. Défie-toi.
Ils font des composants électroniques?
Pour être très précis, ils ne font pas les composants électroniques.
Ils font de l'électronique, alors.
Voilà.
Ils font de l'électronique. Bah alors, Apple, c'était dans la bonne voie.
Nokia?
Non.
Est-ce que c'est américain?
Ça n'est pas américain.
Est-ce que c'est japonais?
C'est japonais.
Sony?
Non, Sony est né après-guerre.
Panasonic?
Non.
Kodak? Non, non, non.
Non, c'est américain en plus, Kodak, malgré le nom.
Mais on est sur une piste, là?
Ah, là, vous avez bien, vous êtes bien rapprochés.
Est-ce que c'est une marque qu'on connaît en France?
Oui.
Enfin, quand je dis connaît, les gens normaux de la rue, je ne dis pas les fans du Japon.
Non, non, les gens normalement connus, oui, ils connaissent. Enfin, les gens connaissent.
Il y a un lien avec la science-fiction et c'est un fabricant d'électronique japonais. Ils font des jeux vidéo, c'est pas Nintendo du coup?
C'est Nintendo!
Nintendo, ça date de 1889.
La société Nintendo
j'y croyais pas, mais.
Donc, vous comprenez pourquoi c'est capillotracté? Parce que, il y a des jeux, de SF, des jeux de voiture, il y a des jeux. Voilà, c'est pour ça.
On aurait pu dire beaucoup de trucs, t'aurais pu trouver un lien.
Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je le mettais dans le classement capillotracté. Parce que, voilà, c'est, en effet, ils font des jeux, il y a des jeux de SF, voilà. Et en effet, la société Nintendo, donc, elle est née le 23 septembre 1889 à Kyoto, donc pas à Tokyo, à Kyoto d'ailleurs. C'est toujours, la société est toujours basée à Kyoto. Et donc aujourd'hui, elle est composée de 4928 employés, en tout cas les employés directs, un peu partout dans le monde, pas qu'au Japon. Et alors, d'après vous, qu'est-ce qu'ils faisaient en 1889?
Ouais, parce que j'imagine qu'ils faisaient pas des jeux vidéo à cette époque-là.
Eh bien.
Des nouilles.
Des installations électriques.
Alors, l'un de vous est proche de quelque chose, mais vous allez voir. Alors, la société. Alors...
J'ai peur que ce soit des nouilles.
Alors, faut savoir que le Nintendo, ça veut dire laisser la chance au ciel. Et donc, elle a été fondée par Fusajiro Yamauchi et sa première activité, c'est les cartes à jouer.
D'où le lien avec
les nouilles. Non mais tu vas voir plus tard les nouilles. Tu vas voir pourquoi le lien avec les nouilles. Donc en effet, le premier métier de Nintendo, et apparemment ils en font encore aujourd'hui, hein, même si c'est plus leur activité principale, c'est les cartes à jouer, notamment ce qu'on appelle les cartes de Hanafuda, qui est un jeu typiquement japonais, qui a des cartes avec des fleurs, enfin c'est un jeu très typique. Alors, juste pour revenir sur les grandes dates, mais du Nintendo qu'on ne connaît pas forcément, le Nintendo d'avant les consoles de jeux. Ils sont restés dans la carte à jouer très longtemps et en fait le développement de la société il date d'après la Seconde Guerre mondiale d'abord en 1953 Nintendo c'est la première compagnie à produire des cartes en plastique, avant c'était des cartes en carton hein, et avec ça ils sont devenus leaders de la carte à jouer au Japon et en 1956 Hiroshi Yamauchi qui était donc l'arrière-petit-fils du créateur déjà. Il visite les États-Unis et il visite en fait la United States Playing Card Company qui était la plus grosse compagnie de cartes à jouer aux États-Unis. Et donc il s'attendait à voir un truc énorme. Et en fait il découvre que cette société leader c'est en fait une toute petite société parce que bien évidemment le marché de la carte à jouer voilà c'est des produits de faible valeur et il se dit il va falloir que je me diversifie pour agrandir la société. Alors notamment ça passe, en 1959 ils passent un contrat avec Disney et en fait ils vont distribuer des cartes à jouer avec les effigies des personnages Disney et ça va, ils vont devenir là encore leaders au Japon parce qu'ils vont amener entre guillemets les cartes à jouer vers le public familial. Là où avant, tu sais, les cartes c'était plus les jeux d'argent, les choses comme ça. Donc gros succès, mais bien évidemment ils sont allés plus loin. Et en fait, à partir de 1963, c'est là qu'ils décident de se diversifier. Et c'est là qu'on n'est pas très loin des nouilles. Parce qu'il faut savoir qu'entre 1963 et 1968, Nintendo, entre autres, a possédé une compagnie de taxi à Kyoto, une chaîne de Love Hotel, mais aussi, ils ont, alors, eux, c'était pas les nouilles, c'était du riz instantané.
Ah.
Voilà, c'est pour ça que tu n'étais pas très loin avec les nouilles. Et aussi d'autres choses comme des aspirateurs, mais surtout ce qui va marcher, en fait, c'est les jouets. Les jouets, et notamment en 1965, faut savoir que c'est une date importante parce qu'ils embauchent un monsieur qui s'appelle Gunpei Yokoi.
Ah.
Tu fais ah parce que tu sais qui c'est ou tu ne sais pas qui c'est?
Pour faire mon malin.
Et pourtant c'est quelqu'un de très très important dans l'histoire Nintendo. À l'origine c'était quelqu'un qui était en fait ingénieur à la maintenance sur les chaînes d'assemblage, et en fait c'était vraiment un inventeur, Gunpei Yokoi. Et notamment le grand succès de Nintendo dans les jouets, c'est le Ultra End. Alors en fait, c'est une même mécanique pour attraper des choses à distance. C'est un truc très cartoon en fait, où tu sais, il y a je sais pas comment le montrer, l'expliquer comme ça radiophoniquement. C'est un truc à distance.
On voit le genre du truc.
Voilà, qui permet d'agripper les machins. Ils ont vendu 1 million au Japon.
Un grappin quoi.
Oui, voilà, c'est un grappin, mais pour les gamins.
Il y a qu'une main au bout, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Oui. Tout à fait.
Je vois le genre.
Et donc dans les années 70, ils se reconvertissent dans le jouet, face à des sociétés d'ailleurs comme Bandai ou Tommy qui étaient déjà installées, hein, donc déjà première grande reconversion. Et puis forcément, en passant par le jouet, ils vont commencer à aller vers le jeu électronique. Vers la fin des années 70, ils commencent notamment à sortir des bornes d'arcade. Ils lancent leur première console en 77, c'est-à-dire que la première console Nintendo, ça s'appelait la Color TV Game 6. C'est les toutes premières générations de consoles, en fait, où le nombre de jeux était intégré dans la console. Un truc style Pong, qui a été amélioré avec le Color TV Game 15, où il y avait 15 jeux. D'ailleurs, la même année, en 77, c'est l'année où Nintendo a embauché le fameux Shigeru Miyamoto. Tu vois, qui c'est, Dino, Shigeru Miyamoto?
Attends, c'est celui qui est au fond à gauche, je crois. T'as le couloir, là, et il est où?
C'est celui qui est tout le temps là, à l'Ecube, lors des conférences Nintendo. C'est le papa.
Quand je regarde l'Ecube, moi.
C'est le papa de Mario!
D'où le lien avec les sports mécaniques, hein.
Mais non, mais il y a des jeux de bagnole, c'est pour ça. Et donc, le fameux Gunpei Yokoi, en 79, vous savez quoi, il prend le train. Et là, en fait, dans le train, il voit un type qui s'ennuie, mais au lieu de s'ennuyer, en fait, il commence à jouer avec une calculatrice LCD, vous savez, qui était programmable. Les gens qui étaient en S et qui avaient des calculatrices programmables, hein, vous savez qu'on peut les programmer pour faire des jeux, hein.
Ouais.
Et donc, il se dit, tiens, mais il y a un truc. Et c'est à partir de cette anecdote, en fait, qui va créer les fameux Game & Watch. Ces petits jeux électroniques, qui sont un peu les ancêtres du Game Boy, que créera Gunpei Yokoi plus tard. Tu vois pourquoi il est super important dans l'histoire Nintendo, Gunpei Yokoi?
Oui, oui.
C'est Game & Watch. Et d'ailleurs, si chez vous, vous avez des Game & Watch, parce que ça date du début des années 80, donc parfois, il y en a qui traînent au fond des cartons, gardez-les, ça vaut de l'or. Mais vraiment. Donc voilà, c'est là qu'est arrivé donc leur entrée dans le jeu électronique. Eh bien, au début des années 80, ils préparent un système qui s'appelle en interne le Advanced Video System, qui sortira en 1983 sous le nom de Family Computer, la Famicom, qui s'appellera la NES chez nous. Mais là, comme on dit, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, si vraiment c'est un thème qui vous intéresse, faut savoir qu'il y a des excellents bouquins en français, faits par un français d'ailleurs, qui s'appelle Florent Gorge, ça s'appelle L'histoire de Nintendo. Alors, il y a plusieurs volumes, il y en a 3 pour l'instant. Le premier, justement, ça concerne toute l'histoire Nintendo avant les jeux électroniques, donc toute la période des cartes à jouer et des jouets. Le
et
deuxième,
des nouilles, enfin du riz.
Et du riz, tout à fait, mais tout à fait. Le deuxième, c'est justement tout sur les Game & Watch, et le troisième, c'est sur la NES. Et normalement, il préparerait apparemment un quatrième qui serait sur la Game Boy. Donc voilà, c'était l'histoire de Nintendo. Mais il s'est passé d'autres choses, et notamment en Formule 1 ce 23 septembre. Et on doit compter 2 naissances. Alors une qui est pas, enfin, oui, on peut dire que c'est de la F1. C'était quand même la naissance le 23 septembre 1899 d'Amédée Gordini. Alors bon, Amédée oui. Gordini, bon, il a participé à 3 courses hors championnat entre 46 et 47, mais bien évidemment, c'est intéressant d'en parler plutôt pour ce qu'il a fait après, hein, évidemment avec les Gordini, les Simca Gordini, et puis bien évidemment avec Renault. Et aussi, c'était la naissance de Robert Dornbos.
Ouais.
Tu n'étais pas obligé de faire ce way, parce que même moi, je trouvais qu'on en avait rien à foutre, tu sais.
Bon anniversaire, Robert.
Et sinon, question Grand Prix, eh bien, on peut revenir au Grand Prix du Canada 1973, qui était quand même le dernier Grand Prix de Jackie Stewart. Son 99e, il en aura pas fait 100.
Et par définition, le dernier aussi de François Sever.
Il n'est pas décédé celui juste d'avant des États-Unis.
C'est pas États-Unis. Je me sens que au Canada, ils ont un accident. Il a un accident au Canada qui est une semaine avant les États-Unis.
Il me semble que moi, c'est à Watkins Glen qui se tue.
Bah oui.
Il se tue à Watkins Glen, mais il se tue pas en course, il se tue en essai.
Je sais pas.
Ah oui, parce qu'attends, il est crédité comme engagé, donc. Je me demande, oui, si tu n'as pas raison.
Oui, parce que moi, je crois me rappeler qu'il avait eu un accident avec Jody Scheckter, je crois, au Canada, où il avait eu un peu mal au dos avant d'aller à Watkins Glen.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que oui, il se tue aux États-Unis et Jackie, en fait, ne fait pas, enfin, ne termine pas la course ou ne fait pas la course. Parce voilà. Que j'ai bien un temps de qualification à Watkins Glen hein, pour les deux. Donc, c'est qu'ils ont au moins fait la qualif.
Oui, bah, parce que Sever s'est tué pendant la qualif. Il voulait justement améliorer le temps. Enfin, son temps, et c'est le tour de trop qu'il a fait. Ouais.
Donc voilà, c'était tout pour l'éphéméride.
Et surtout, bravo aux Alpes pour avoir trouvé la réponse.
Oui.
Oh, j'étais à 20 000 km.
Oh, je pense quand même que tu.
Ouais, en fait, c'est le lien science-fiction et fabricant d'électronique japonais. C'est ça, j'ai direct.
Ah, moi j'ai même pas pensé à Nintendo, mais c'est tellement ça
parce
me
que
semblait.
Sinon, en réserve, j'avais Konami qui fait des jeux de foot.
Oui, voilà, tout à fait, oui.
Mais après, j'étais.
Moi, j'étais parti sur Konica Minolta. T'aurais pas dit Nintendo, j'aurais dit Konica Minolta. Parce qu'il y a un rapport aussi avec la voiture. Je me dis, ah bon, bah voilà, Konica Minolta, bon, ok.
Dino, c'est désormais l'heure de Zal.
C'est l'heure de gloire de l'invité.
Le service après-vente de la F1 vous présente. L'heure de gloire de l'invité.
Alors Zal, tu le sais, cette saison, nous avons décidé de vous donner la parole. Donc ça commence par le...
Pour ou pas pour.
Voilà, donc je rappelle le principe, hein, je vais te proposer une dizaine de thèmes. Voilà, chaque fois tu me dis pour ou pas pour, et à la fin tu peux revenir sur trois thèmes. Un quatrième si tu as décidé de parler du thème un peu barré, mais voilà.
Oui.
Donc si tu es prêt, quand tu es prêt, tu me dis top et nous y allons.
Bien, je te dis top.
Alors, pour ou pas pour, le retour de Robert Kubica en Formule 1.
Pour.
Pour ou pas pour F1 2012.
Pas pour.
Pour ou pas pour, une meilleure identification des pilotes quand ils sont en piste.
Pour.
Pour ou pas pour, Lewis Hamilton chez Mercedes en 2013.
Pas pour.
Pour ou pas pour, que Canal+ achète les droits de la F1.
Pas pour.
Pour ou pas pour, le calendrier prévisionnel de 2013.
Pas pour.
Pour ou pas pour le renouvellement du contrat de Singapour.
Pas pour.
Pour ou pas pour réunir Sébastien Vettel et Fernando Alonso dans la même écurie.
Pour.
Pour ou pas pour la Formule E.
Pour.
Et enfin, pour ou pas pour le mankini.
Alors, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais mettre pour.
Est-ce que tu es pour?
Je sens qu'il y avait un piège.
Alors, le mankini, c'est... Est-ce que tu as vu le film Borat?
Non.
Alors, Borat, il a une espèce de...
Ah si, oui, c'est le maillot de bain, là. Oui,
voilà. Eh ben, c'est ça, le mankini.
On va dire pour, mais pas pour moi.
Autant le dire, si vous êtes fan du mankini, vous n'avez pas le droit de porter si vous êtes imberbe. Ça se porte poilu. Le mankini n'a aucun intérêt pour les hommes imberbes, soyons clairs.
Voilà.
S'il n'y a pas un côté gorille, voilà, il faut absolument le côté gorille. Et donc, tu peux revenir sur trois sujets de ton choix.
Alors, le Grand Prix de Singapour, en fait, je suis pour le Grand Prix de Singapour et pour le cadre nocturne dans la ville, etc., mais contre le circuit. Enfin, j'aimerais bien qu'on remanie le circuit et je sais pas, il y avait des nouvelles qui couraient aujourd'hui sur ça.
Oui, tout à fait, oui. Notamment sur toute la partie avec la chicane 10 et tout ça.
Après, pour le Canal+, je suis contre parce que en tant qu'étudiant, ça me ferait chier de payer une licence pour pouvoir voir les Grands Prix. Déjà qu'on n'a pas les qualifs et pas d'essais libres.
Mais c'est pas dit que ce sera payant.
Oui, mais c'est pas dit non plus que ça sera pas payant.
Non mais voilà, c'est on est bien d'accord, mais c'est pas dit que ce sera exclusivement payant. Il y aura peut-être soit un deal avec TF1. Soit la retransmission au moins des courses comme c'est actuellement le cas avec TF1 sur D8.
Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme thème?
Alors, il y avait Robert Kubica en Formule 1, F1 2012, une meilleure identification des pilotes quand ils sont en piste, Lewis Hamilton chez Mercedes en 2013, le calendrier prévisionnel 2013, Vettel et Alonso dans la même écurie et la Formule E.
Je vais parler de F1 2012 parce que je joue à ces jeux en fait.
Oui. Moi, puis, dès que tu nous as dit que, je t'avouerai que, là,
quand, donc, quand dit tu nous as dit, ouais, Air Factor, d'accord.
Je fais Air Factor, bon, je fais alors cette question là, pas pour.
En fait, j'ai commencé sur Air Factor il y a plusieurs années et dès que le jeu est sorti, donc c'est-à-dire 2006 ou 2007, en fait. Et je conduis avec volant et pédalier et j'ai des très bonnes sensations sur ce jeu. Et puis, récemment, j'ai acheté F1 2010, donc le premier que Codemaster a ressorti depuis, après plusieurs années sans jeu de F1 officiel, entre guillemets. Mm-hmm. J'étais déçu déjà par la sonorité de la voiture et au niveau des sensations de pilotage, il manque beaucoup de dans les physiques de pilotage, il manque énormément de choses, notamment l'aspiration, elle est trop faible. Il y a plein de choses où la voiture prend les virages beaucoup trop rapidement, il y a pas assez de dérobades ou alors des dérobades qui devraient pas se faire à certains endroits. C'est quand on a joué à du Air Factor, c'est difficile de revenir sur un jeu du type F1 2010. Après, je dirais que moi je suis pas pour, mais peut-être qu'il y a un public, ça s'adresse à un certain public qui est moins exigeant sur la simulation et peut-être plus sur de l'arcade.
Ouais, genre Shinji et moi.
Non, mais c'est ce que je disais, voilà, c'est des jeux consoles, quoi. C'est que, en effet, quand t'as goûté à du Air Factor, de la simulation pure, c'est pas étonnant que, oui, tu sois insatisfait. C'est plus.
Mais le jeu est très beau, hein, par contre. Hein. En tout cas, le 2010 est beau graphiquement parlant. Le 2011, je le trouve moins beau graphiquement. Je sais pas pourquoi, je le trouve trop clair. Mais si je compare le graphique d'Air Factor et de F1 2010. Si F1 2010 c'est quand même au-dessus, hein. Même si maintenant dans Air Factor il y a des modes qui sont bien soignés, mais quand même niveau graphique. Ouais.
Mais il y a aussi Project Cars là qui va sortir. Voilà l'occasion de vous rappeler que nous sommes partenaires avec un magazine de simulation qui s'appelle Live Sim. Voilà, on a reçu Jackie Ratzenberger au Grand Prix d'Italie. Voilà, vous pouvez y aller. Je crois qu'ils feront un test bientôt sur ce jeu-là. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir.
Mmh. Et ça serait un jeu qui marcherait sur PC aussi, oui.
Ouais.
D'accord. Ah, c'est de toute façon c'est un jeu PC. C'est pas.
Voilà, c'est genre Air Factor en fait.
Ok. Bah, le Air Factor version 2 est sorti récemment aussi. Ou la version bêta d'ailleurs, la version d'essai peut-être. Ah. Et pour l'instant.
Graphiquement, Project Cars, c'est bluffant. Enfin.
Oui, d'accord. Oui. Bah, j'irai voir.
Et donc, tu as fait tes trois thèmes.
Oui.
T'étais rapide. Tiens, si tu veux, t'as le droit de revenir sur un quatrième. Vu que t'as été synthétique, t'as le droit de revenir sur un quatrième.
Qui sera pas le Malkini.
Voilà.
Dommage.
Tu peux parler de Malkini.
On voit que ça t'intéresse, n'hésite pas.
Non, je plaisante. Donc, je reviendrai sur Hamilton et Mercedes. Mais en fait, j'ai du mal parce que j'aimerais bien qu'il y ait un peu un turnover dans les quatre top teams ou les cinq top teams. Parce que ça fait 4 ans qu'on a le même line-up, non, ça fait 3 années qu'on a le même line-up sur Mercedes, McLaren et Ferrari et Red Bull. Donc j'aimerais bien un peu de renouveau pour faire monter certains pilotes que j'apprécie dans les écuries, un peu les outsiders. Mais il y a des pilotes que j'aimerais pas voir partir en même temps.
Oui, c'est un peu le problème, c'est que je trouve que moi c'est ce que je trouve le plus triste dans cette saison, c'est qu'on a énormément de jeunes qui poussent derrière, les Perez, les Di Resta, les Hülkenberg, même Kobayashi, qui mériteraient peut-être d'avoir leur chance dans des équipes de pointe. Sauf que il y a déjà des poids lourds dans ces équipes-là, quoi. Et puis il y a des mecs qu'on a effectivement, comme tu dis, on n'a pas envie de voir partir ou qu'on soit content qu'ils soient là. On peut penser Raikkonen, on peut penser Schumacher.
Pour Schumacher, c'est un peu délicat parce que bon, on m'aurait posé la question il y a 2 ans, j'aurais dit faut qu'il reparte. Il est pas au niveau. Mais là, cette saison, quand je vois ses performances par rapport à Rosberg, bon, pas à cette course, mais globalement sur toute la saison, et si on regarde pas le nombre de points au championnat, on regarde seulement les performances, il a souvent devancé en qualification. Au niveau de la course, il a été mal payé. Je pense que sans ses pépins, bon, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, comme dirait l'expression, mais je pense qu'il aurait plus de points que Rosberg au championnat à l'heure actuelle. Donc, j'aimerais bien le voir, ou chez Mercedes, voire chez McLaren, mais ça, c'est peut-être un peu un rêve. Mais j'aimerais bien voir une dernière saison avant que il prenne sa retraite sportive définitive et pourquoi pas dans une meilleure voiture que la Mercedes pour voir décrocher une dernière victoire.
On parle de Sauber. pour Schumacher.
Ça, c'est Moncey qui l'a sorti,
oui,
non?
Non. Moncey l'a sorti, mais en fait, il s'appuie notamment sur le Bild, qui a fait état de, donc, un journal allemand, qui a fait état de rencontres entre Monisha Kaltenborn, la présidente, la directrice de l'écurie Sauber, et Michael Schumacher. Et j'ai été voir un peu sur des sites allemands. Nous, en France, il y a que Jean-Louis Moncey qui en parle, mais sur les blogs et compagnie, tout le monde commente un petit peu comme si c'était vraiment quelque chose de sérieux. Donc c'est voilà,
ouais, juste quand oula, même,
ouais. Michael Schumacher, c'est sommaire, je deviens aveugle.
Donc pour revenir à Hamilton, j'ai dit pas pour parce que je sais pas si j'aimerais bien qu'il parte ou pas. J'aimerais bien qu'il y ait du changement, mais c'est pas spécialement lui, et je veux pas spécialement que lui vienne s'enfermer entre guillemets chez Mercedes, parce que je les vois pas redresser la situation avant un bon bout de temps tel que c'est parti.
Mais si toi tu avais la main sur le marché des transferts, tu mettrais qui dans quelle équipe?
Déjà je vois Massa rester chez Ferrari, ça c'est quasiment sûr pour moi.
Oh merde. Non, pitié, pas ça.
C'est vrai que moi j'aimerais bien le voir partir personnellement, parce que moi je suis plutôt supporter de Ferrari, et ne pas les voir jouer le championnat constructeur, pour moi c'est un peu une aberration. Mais je pense que dans l'équipe il a sa place, là dans le système entre guillemets Alonso il a sa place, et je pense qu'ils vont le garder au moins pour l'année prochaine. Après moi je pense que bon, Red Bull on sait ce qui se passera. Lotus, ça va pas changer, je pense pas non plus. Et je pense que là où je sais pas vraiment, c'est entre McLaren Mercedes et Mercedes. Je sais pas, il peut y avoir des échanges de tous les côtés, etc. Plusieurs possibilités. La seule chose dont on est sûr, c'est que Button va rester chez McLaren. Oui. Mais après, est-ce que ça sera Button Rosberg, Button Hamilton, voire Button Schumacher, ou Button Di Resta, Button Hülkenberg? Il y a tellement de possibilités que je sais.
D'ailleurs, on a parlé beaucoup de Button Hülkenberg ce week-end, parce que on a demandé à Jenson Button, on lui a dit, mais qui vous aimeriez avoir comme coéquipier? Et lui, il a répondu, l'incroyable Hulk.
Ben, moi, ça me ferait plaisir aussi. Hein.
Et en fait, derrière, tout le monde a été un peu sur le cul en lui disant Hülkenberg, non, l'incroyable Hulk. Je voulais pas dire Hülkenberg, l'incroyable Hulk, un mec super fort et tout. D'accord, ok, mais t'es sûr qu'il n'y a pas de message subliminal? Alors, est-ce que tu as une actu dont tu n'as rien eu à foutre ces dernières semaines?
Ouais, si je me fie au site FanF1, c'est Singapour monte au capital de CVC.
C'est pas une des miennes.
C'est bon, t'es content.
Non, mais en fait, ça m'intéresserait si j'avais un point de comparaison avec les autres Grands Prix, à quel niveau ils sont dans le capital, parce que là, dans l'article, apparemment, ils disent qu'ils montent de 6 à 10, si je me trompe pas. Mais les autres Grands Prix, on sait pas à quel niveau ils sont. On est complètement dans le flou dans cette histoire, et cette information-là, j'arrive pas à la mettre.
Parce qu'en fait, c'est pas le Grand Prix qui est dans le capital, c'est l'État de Singapour qui est dans le capital.
C'est l'État.
Ouais. Comme tu dois sans doute avoir à Abu Dhabi, le Qatar, ce genre de choses.
Bon, bah voilà. Donc, sans point de comparaison pour moi, donc j'arrive pas à m'intéresser à ce genre de...
Mais je persiste les signes, hein. Quand la F1 rentrera sur le marché...
On en parlera.
Promis, on en parlera. On va patauger comme des... on va patauger.
Mais on en parlera. On en parlera.
Ensuite, quelle est l'actualité hors Grand Prix, hors résultats et compagnie, que tu aimerais lire dans les prochaines semaines?
En fait, j'en ai deux.
Bah, vas-y, fais-toi.
Alors, Mercedes quitte la F1.
Ah, t'aimerais lire ça, toi?
Oui, parce que pour moi, ça fait 3 ans que j'ai beaucoup d'espoir sur leur équipe. Ils ont un très bon duo de pilotes et ils sont pas capables de leur fournir une voiture, au moins qui est capable de jouer les podiums à chaque course. Pour moi, c'est la grande déception, et je vois pas Mercedes, sachant que McLaren est tout le temps devant, McLaren-Mercedes, je vois pas quel est l'intérêt de Mercedes de rester en F1, sachant que, avec le même moteur, il y a une écurie qui fait mieux, et je pense que l'image de marque est pas là, en fait.
Apparemment, on serait plutôt parti pour le contraire. Surtout si quelqu'un vient.
Oui, après c'est
apparemment cette semaine ça a été l'un des enjeux. Normalement on devait savoir pour Hamilton avant le Grand Prix de Singapour, et en fait ça a attendu, et on a notamment certains sites, notamment pitpass.com, ont fait le lien en disant que s'il attendait, c'est parce que justement il fallait prendre des décisions chez Mercedes, et visiblement Mercedes la semaine dernière a trouvé un accord avec les accords Concorde, ils vont signer les accords Concorde et compagnie, donc ils ont assuré leur avenir en Formule 1. Donc c'est sans doute pas anodin avec effectivement l'arrivée de Lewis Hamilton, fort probable.
Après, bon, moi je suis pour qu'il parte, mais bon, ça me dérange pas qu'il reste non plus. Hein. L'idéal pour moi, c'est qu'il vende à une écurie privée, en fait, et qu'il garde le moteur Mercedes. Mais ça me dérangerait de voir partir et qu'il n'y ait plus d'écurie du tout, en fait. Je voudrais que la structure reste, en fait.
Oui, faire ce que...
Mais plus le nom Mercedes.
Bah en fait,
ce que t'es dans les tuyaux ces dernières semaines, faire une équipe AMG.
Voilà, exactement.
Toujours une équipe liée à Mercedes avec fourniture de moteurs et compagnie et fourniture aussi d'intelligence, mais avec un autre nom que Mercedes.
Et la deuxième actu que j'aimerais lire, c'est que les futurs V6 turbo, ils auront un niveau de performance supérieur à celui du V8 actuel. Parce que je suis un peu un nostalgique des V10 des débuts des années 2000. Bon après, moi ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une formule un petit peu, donc avec peut-être. Bon, ce qui est en train de se passer, c'est que je pense qu'en 2014, c'est ce qui se passera. Il y aura plus de restrictions aérodynamiques, mais avoir quand même une bonne puissance moteur. Un petit peu comme dans les années
80,
voilà.
Ils sont censés théoriquement apporter autant que maintenant, mais bon, tant qu'on les aura pas vus, on pourra pas.
Surtout en tout cas, Bernie avait dit qu'il aimait bien le bruit.
Oui, apparemment, le son, ça serait bien.
Mais moi, je m'inquiète pas trop pour ça, parce que, enfin, quand je vois les vidéos des années 80, des V6, enfin, des 6 cylindres turbo des années 80, pour moi, ça me plaît. Ça me plaît plus que les V8 actuels.
Non, puis c'est pareil, enfin, on avait le même débat, moi, je me rappellerai toujours de 97, le départ de Renault, et je crois que c'était F1, ils avaient fait un petit truc, de super mélodramatique, vous n'entendrez plus ce moteur et compagnie. Puis en fait, la F1 a quand même été intéressante l'année suivante, même sans le moteur Renault, puis quand on est passé du V10 au V8, tout le monde s'était inquiété en disant, ah, le bruit des V8, et puis en fait, on s'est habitué, quoi.
Le moteur Renault était quand même présent sous d'autres appellations. Il y avait quand même d'autres V10, il y avait V10 Mercedes et V10 Ferrari qui n'étaient pas désagréables à entendre.
Non.
Et au contraire, quelle l'actualité, toujours hors Grand Prix, hors résultat et compagnie, n'aimerais-tu pas lire?
Alors, que Kobayashi ne trouve pas de baquet la saison suivante. Ah. Parce que j'aime bien ce pilote aussi. Et par contre, je ne vois pas lui, je ne vois pas monter dans un top team comme Di Resta, Hülkenberg ou Perez, mais j'aimerais bien qu'il reste chez Sauber là où il est, parce que je pense qu'il le mérite aussi. Parce qu'il y a d'autres pilotes, ça me dérangerait pas qu'ils partent.
Vas-y, balance des noms.
Petrov, Kartikeyan.
Ah, Petrov, apparemment.
C'est dans les tuyaux.
Parce que justement, il n'y a plus rien dans les tuyaux, c'est ça le problème.
Il a plus le soutien du gouvernement, je crois. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu d'argent en moins. Et enfin, est-ce que tu as un drive-thru of the weekend?
En fait, j'en ai deux, mais commencez-vous, comme ça je choisirai.
Merde. C'est moi aussi, j'en ai deux, comment je te dis?
Ah, bah d'accord, bon. J'aurais pu en avoir deux, mais bon, j'en aurais qu'un. Parce que bon, vous savez, je l'ai mis sur Twitter, j'ai été très choqué par Denis Brognard, mais ça c'est une autre histoire.
Qu'est-ce que t'as mis sur Denis Brognard?
Mais tu l'as vu dans F1 La Une?
Non.
Ah, c'est parce que tu l'as pas vu?
Non, mais j'ai fait la cuisine, moi.
T'as pas vu que F1 La Une avait été présenté par Jacques Seguela?
Ah.
Il était orange.
Ah.
Mais vraiment, pouh.
Oui, mais il revient de Koh-Lanta.
Et pourtant, à Monza, il y a deux semaines, il était pas...
Oui, mais Koh-Lanta, la boutique du soleil en plein Paris. Il s'appelle Koh-Lanta, tu fais des rayons UV.
Voilà. Non, parce que ça, on me l'a fait remarquer aussi, le teint de Denis.
C'est ouf.
Ou alors, il a une maquilleuse qui lui en voulait.
Aussi, je me suis posé la question, je sais pas, mais waouh, c'était...
On dit Jacques Seguela, mais ça se trouve, Jacques Seguela, il est pâle comme un cul. C'est juste qu'il est super farté.
Mais il est super farté.
Oui, c'est vrai.
Non, sinon... Oh, André, il faut quand même contre la réalisation ce week-end qui a quand même été...
Bien pourri.
Bien pourri. Mais vraiment, là... Pourtant, c'est les mêmes, hein. Normalement, c'est le même toute la saison, hein, quasiment. Oui.
Mais là, il avait envie de faire des replays.
Je sais pas.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé la fonction replay. On va faire des replays.
Je sais pas. Pourtant, il devrait être comme les pilotes, tu vois, ne pas s'adapter au décalage. Je sais pas. Est-ce qu'il était endormi? C'est un mystère, hein. On ne le saura jamais. Donc voilà, pour la réalisation. Parce que c'était vraiment à chier, quand même, ce week-end.
Moi, je vais te donner deux drive-throughs. C'est deux tout petits drive-throughs. Un premier, c'est un drive-through à Giancarlo Minardi, qui a déclaré ce week-end qu'il souhaitait que Schumacher prenne sa retraite parce que selon lui, il fallait avec deux Rosberg dans son équipe, il y aurait plus de résultats. Certes, maintenant, il faudrait peut-être qu'il regarde aussi les performances. Oui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Zal, les performances de Schumacher cette saison sont, pour moi, un cran au-dessus de celles de Rosberg. Encore une fois, voilà, à Manicourt, c'est le seul pilote qui est venu pour voir les nouveautés. C'est un signe fort de l'investissement du pilote, du fait que ce mec, il a encore envie de se battre. Donc, voilà, je pense sincèrement que autant je pense qu'il faut qu'il parte Schumacher, qu'il a peut-être plus rien à gagner. Autant en même temps, je suis très respectueux, d'autant plus que de ce que j'ai pu voir à Manicourt, je suis très respectueux du personnage et de sa saison. Il fait une saison absolument sensationnelle pour moi. Et le deuxième drapeau, c'est un petit drapeau, mais j'étais obligé de le faire. C'est pour Fernando. Parce que Fernando qui se met à défendre Massa comme il l'a fait en tapant sur ses petits camarades en disant que personne n'a fait ce qu'a fait Felipe. Oui, enfin en même temps à ce rythme-là, on pouvait aussi défendre Barrichello, on pouvait aussi défendre je sais pas Fisichella en disant voilà, bon ils sont là depuis plus longtemps et compagnie. Massa, c'est un bon pilote, même un très bon pilote, il a jamais s'agit de dire ça. Maintenant, le fait est que de le comparer à des Perez, à des Di Resta, des Hülkenberg, c'est pas très juste, dans la mesure où, bah, d'abord, c'est plus la même époque. Eux, ils ont connu le GP2, ils ont connu d'autres formules. Donc déjà, sur l'aspect, il a fait des choses que les autres n'ont pas fait en formule promotion. Oui, enfin, en même temps, c'était pas du tout la même chose. Et puis surtout, c'est en termes de résultats, quoi. Ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est les résultats. On prend Hülkenberg, c'est régulièrement il est régulièrement à la bagarre avec Massa alors qu'il a une Force India. On prend Perez, c'est 3 podiums cette saison, même s'il capitalise pas mal sur les capacités de sa voiture aussi. C'est en 2 saisons, c'est quand même déjà pas mal ce qu'il fait. Donc voilà, je pense que qu'ils disent clairement moi je préfère avoir Massa, on fait une bonne équipe ensemble. Mais là c'est dénigrer un peu les autres pour au final quand même faire comprendre la même chose, c'est que en fait j'en veux pas parce qu'ils sont plus fort.
En fait, le problème, c'est
quand même, quand tu lis un peu entre les lignes, c'est grosso modo, tu sens un petit peu la mauvaise foi perçante de Fernando, qui veut dire, en fait, moi, Massa, je m'en contente bien en ce moment.
Mais en fait, on peut pas savoir ce que vont faire ces jeunes pilotes, là, ces espoirs, dans une écurie de pointe, aux côtés d'un pilote qui a l'écurie à sa main, comme Fernando Alonso, parce que si on se rappelle bien, au niveau de l'histoire de la F1, il y avait Barrichello qui était considéré comme un futur Ayrton Senna à un moment, Fisichella qui était un des grands espoirs, qui était considéré comme le meilleur pilote du plateau derrière Schumacher dans les années 2000. Ces pilotes qui se sont complètement écroulés quand ils sont tombés sur un meilleur pilote dans l'équipe, qui se sont fait complètement dominer. Donc peut-être que Perez, Hülkenberg et compagnie ne vont pas également être au niveau du pilote leader, mais je leur donnerai la chance quand même.
C'est ce que ne dit pas Alonso. Alonso, il ne dit pas, c'est peut-être un peu tôt pour eux. Enfin, voilà, il dit juste, je suis d'accord avec Montezemolo. Là, il se contente juste de dénigrer et dire, ah bah oui, mais ils n'ont pas fait ce que Massa a fait.
Oui, Massa a quand même été pendant plusieurs années chez Ferrari, qui était dans les 2 meilleures voitures.
Oui.
Donc, je pense que c'est là d'ailleurs où il a ramassé toutes ses victoires, entre 2016 et 2008.
Donc voilà. Et toi, c'était quoi tes deux drive-through?
Alors, déjà, moi, le plus important, c'est sur la conception des circuits actuels. Et donc, au-delà du tracé, c'est les dégagements, en fait. Autant qu'on bitume autour du Rédillon, Blanchimont ou du 130R, parce qu'à ces vitesses-là, on a 300, et s'il y a un pilote qui se foire devant, il faut pouvoir dévier rapidement, et donc, pour ne pas compromettre sa course directement. Ok. Mais bitumer, par exemple, comme à l'extérieur de l'épingle d'Hockenheim, là où Vettel s'est pris sa pénalité, ou alors encore l'extérieur du virage le virage où juste après la zone DRS à Singapour.
Ouais.
Ça, je comprends pas. Pour moi, ça, c'est complètement aberrant.
Et je suis assez d'accord. C'est la critique que je fais à Singapour, quoi. C'est dégagement. Enfin,
parce qu'il y a deux endroits où il vibre au ras du mur. Et donc là, il n'y a pas de, on peut pas tricher. Quitte sur ce virage-là, repousser l'intérieur, la corde au niveau un peu plus loin pour garder la même largeur de piste. Mais je comprends pas pourquoi il y a cette grande bande derrière. Déjà en bitume.
Surtout qu'en plus, c'est dangereux parce que ça fait un vibreur en plein milieu.
Oui,
quand tu dis, sans forcément rapprocher le mur. Oui. Tu mets le vibreur près du mur, ça donne plus d'angle au mec pour pouvoir rouler.
Oui, oui.
Voilà. Ou alors t'as le vibreur, t'as 1 mètre, 1,50 mètre, même 2 mètres parce que les mecs peuvent passer quasiment entre le vibreur et le mur. Voilà, c'est limite dangereux. Enfin, le mec qui passe sur le vibreur, il peut partir un peu dans n'importe quel sens.
Une autre chose que je supporte pas dans les dégagements, c'est les gendarmes couchés. Ça, je.
Ouais.
Pourquoi, dans ce cas-là, on met pas de bitume, on remet un bon vieux bac à gravier ou de l'herbe ou ce que tu veux, mais.
Ce qu'ils ont fait à Monaco.
À Monaco, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année? Parce que.
À Monaco, dans la piscine, la chicane de la piscine, avant il y avait des gendarmes couchés, ils les ont retirés et ils ont mis du revêtement.
Ah oui,
du
le père, truc abrasif, là.
Ouais, comme Castellet.
Quand les mecs, ils arrivent, ils sont
automatiquement. Oui, quelque chose du même genre, oui.
Voilà. Ils sont automatiquement freinés. C'est d'ailleurs quelque chose que, alors on parlait tout à l'heure de F1 2012, c'est quelque chose que j'ai vu dans la, comment ça s'appelle, la démonstration de F1 2012, et que j'avais pas senti dans les précédents jeux, c'est que, par exemple, à Abu Dhabi, quand tu vas à l'extérieur des virages, et que tu vas vraiment à l'extérieur à Abu Dhabi, vraiment, le revêtement te freine. Là, tu sens vraiment que ça se freine. Alors qu'avant, en fait, j'avais un peu l'impression que tu pouvais passer comme tu voulais, ça faisait pas grand chose.
Est-ce que ça freine si tu gardes le pied sur l'accélérateur, parce que vu la puissance du
F1, si tu gardes le pied sur l'accélérateur, ça te freine. Et le rouge te freine vraiment.
D'accord.
Voilà, le bleu te freine bien, le rouge te freine vraiment.
Oui, ou à la limite faire ça, mais les gendarmes couchés, surtout par exemple à Monza où on est à 340 km/h en vitesse de pointe, le gars il part en tête à queue comme Vergne, ça freine moins bien, il se tape un gendarme couché et il s'envole. Voilà, pour moi c'est assez aberrant. Donc voilà, c'est mon drive-thru sur les dégagements des circuits. Je suis un peu la vieille école en fait.
Et tu avais un deuxième drive-thru ?
Oui, alors c'était sur la pénalité de Weber pour la raison évoquée, c'est parce que donc là il est à côté de Kobayashi, donc il est obligé d'enjamber le vibreur pour pas s'accrocher en fait, parce que s'il tourne un peu plus à gauche et qu'il prend la trajectoire normale, ça touche, hein, ça fait comme Massa et Hamilton l'année dernière au même endroit. Et donc là je comprends pas pourquoi une pénalité comme ça. Et puis après c'est pour la pénalité de pique, c'est pas la pénalité en soi, comme j'étais pas très heureux de la pénalité en soi sur FanF1, mais bon au final j'ai réussi à le concéder. Et moi ce qui m'énerve plus c'est la façon dont c'est appliqué.
Oui.
Parce que pourquoi ne pas lui imposer un stop and go dans les 3 ou 5 premiers tours de course? Et après, comme ça, il peut faire sa course, il peut au moins se battre pour essayer de remonter, surtout qu'il avait des chances avec les safety cars. Là, ça dépend quand même la pénalité de 20 secondes après la course, sachant que ça s'est déroulé, sa faute a été faite dans les essais libres, il me semble, c'est ça? Pas en qualif, c'est dans les essais libres?
En plus, oui, les essais libres, oui.
Que je trouve que mettre ça à la fin de la course, essayer, sachant qu'il y a eu plein de safety cars, donc ça a forcément resserré le plateau, moi, je vois pas le genre. C'est comme la pénalité qui a été mise à Schumacher il y a 2 ans à Monaco. C'est pareil, quoi. Pénalité de 20 secondes en fin de course, pour moi, ça a pas d'intérêt. Moi, je serais plus pour adapter un petit peu les pénalités. C'est pas forcément ne pas en mettre, mais les adapter quand même au contexte.
Parce que ce qui est surtout là, qui est assez injuste, je trouve, c'est que on a une erreur qui est faite en essai libre 3. Et le mec, il commence les qualifications, il sait déjà que le lendemain, il a 30 secondes dans la bulle. Il a 20 secondes dans la bulle. Donc c'est déjà qu'il a un handicap. Là où on a déjà vu, par exemple, des Maldonado, je crois que c'est à Monaco cette année, avoir un incident en essai libre 3, être pénalisé sur la grille. Et puis derrière, voilà, il avait effectivement sa chance de se refaire en course. Là, je pense que le truc, c'est que d'abord ils ont jugé que c'était grave, c'était une manœuvre plus dangereuse. Bon, la sanction est peut-être sévère. Et puis qu'ils ont tout simplement jugé, ils ont dit bon bah Pic, il va partir 20, 21e. Si on le fait reculer place, il va partir dernier. Donc, mais voilà, à un moment donné, il faut juste aussi être homogène avec les sanctions. C'est-à-dire que les sanctions, bah, voilà, tu fais une faute à un moment donné, il faut que tu sois sanctionné tout de suite, pas.
Oui, parce que l'argument, c'était de dire oui, comme c'est une Marussia, de toute façon, il part 20e ou 24, donc ça fait pas une grande différence. Mais bon, après, dans ce cas-là, pourquoi on ne différencie pas non plus les top teams des teams du milieu? Pourquoi pas 5 places, on mettrait pas 5 places de pénalité pour les teams du milieu et 10 pour les teams de.
Mais ça rejoint ce qu'on avait dit à une époque, c'est à la limite pourquoi pas quand il s'agit de pénalité, tout simplement prolonger la grille. Le mec il est 21e, il prend 10 places de pénalité, il part sur le 31e emplacement.
Par contre, je pense que ce serait pas possible sur toutes les courses, hein. Il y aurait pas forcément
trop. Oh bah après c'est de merde.
Ou alors l'obliger de partir des stands avec
tu faisais ça, tu l'obligeais à partir
avec
des stands
avec 10 secondes entre le décalage entre le feu vert de la grille principale et le feu vert des stands, 10 secondes d'écart et voilà. Par exemple,
ce qui a été fait au Mans, j'ai cité l'exemple dans une précédente émission, pour un changement de moteur avec Pescarolo, où ils ont été condamnés à rester un tour. Bon, c'est 24 heures du Mans, donc un tour, c'est entre guillemets pas trop pénalisant. Mais là, voilà, effectivement, comme tu dis, on le met en bout d'aller descendre, on l'impose de rester 10 secondes, il fait un drive-through dès le début de course, et voilà, quoi. Alors je sais qu'on t'a répondu derrière que ça changeait pas grand-chose, parce que qu'on fasse le drive-through en début de course ou qu'on le fasse en fin de course.
Ça change quand même des choses sur la physionomie de la course.
Bah voilà, c'est qu'il peut se récupérer avec une bonne performance.
Là, il y avait des safety cars qui pouvaient le faire remonter, etc. Il avait comme sa carte à jouer. Il pouvait faire une superbe course en remontant de loin, comme l'avait fait Jenson Button au Canada en 2011, où il avait écopé d'une pénalité, je crois, pour avoir sorti Alonso. Là, il était remonté quand même de très loin. Il avait une pénalité pendant la course qui était sans doute méritée. Il était remonté très loin, il avait gagné la course. Alors Pic pouvait faire la même chose en dépassant les HRT et les Caterham, pourquoi pas, mais on va pas trop pousser non plus. Mais ça pouvait quand même ne pas lui gâcher sa course comme là où ils arrivent en peloton serré et donc 20 secondes, ça fait directement fin de classement.
Mais la question aussi, c'est est-ce que ça méritait aussi une pénalité ? C'est-à-dire que on peut se dire aussi, est-ce qu'il y a besoin dans ces conditions-là de pénaliser immédiatement le pilote ? Est-ce qu'on peut pas juste lui adresser un avertissement, comme on a fait avec d'autres, dire attention, par contre, la prochaine fois, là, on peut même menacer, dire là, vous avez fait quelque chose.
Moi, je suis plutôt d'accord avec ça parce que si je me souviens bien, la dernière fois qu'on a eu des pénalités de ce genre-là où c'était assez mal vécu, c'était en 2006 avec Schumacher au Grand Prix de Hongrie. Et bon là j'ai pris sa défense en tant que fan de Ferrari. Bon c'est vrai que en même temps quand il arrive il est dans un tour de qualification et bon même s'il aurait dû anticiper parce que il voyait les drapeaux mais bon il arrive comme ça dans un virage où t'as Alonso et Kubica qui roulent vraiment très très lentement et genre mettre un gros coup de patin ça aurait pu faire comme Schumacher justement au Grand Prix de Singapour cette année donc il les a dépassés après il a ralenti juste après donc je sais pas si c'était vraiment volonté de nuire et de dire je fais ce que je veux ici quoi mais
quitte même tu vois derrière à menacer fort c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vous dit rien par contre la prochaine fois on vous prévient
oui c'est
vous
ça
recommencez à dépasser sous drapeau rouge lors d'une n'importe quelle séance vous êtes exclu d'une course bah, aujourd'hui voilà c'est ce qu'on demande c'est pas forcément qu'il soit sévère au premier truc c'est qu'il donne un avertissement et que par contre cet avertissement soit suffisamment fort pour dissuader le pilote de le faire le système de probation enfin aux États-Unis il y a des systèmes de probation de plusieurs courses en NASCAR faudra peut-être aussi l'instaurer en Formule 1 dire voilà vous êtes sous probation au moindre incident vous êtes exclu d'une course ou vous reculez vous prenez une minute sur votre truc de course, mais au moins le mec il a la possibilité de ne plus refaire l'erreur. Là aujourd'hui il fait l'erreur direct, il est sanctionné.
Je trouve qu'on est un peu retombé dans les travers de la fin des années 2000 avec des pénalités un peu à tout va. En 2010 et 2011 on avait eu moins ça quand même, avec le début de l'ère Todd.
C'est vrai que cette
et là,
année,
cette année on est, c'est revenu.
Alors ce qu'on peut noter par contre qui est intéressant, c'est que Todd a demandé à ce que dans la peine de Charles Pic, on ajoute une journée de service communautaire pour la campagne de la sécurité routière de la FIA. Voilà, ça aussi c'est des dispositifs qui devraient être quasiment généralisés quoi. Le mec il est sanctionné, bah hop, il est obligé de travailler pour faire la promotion de la sécurité routière. Toute mauvaise manœuvre devra entraîner un nombre 1, 2, 3 jours.
Je crois que c'est ce que Schumacher avait eu en 97 aussi, en plus de son déclassement.
C'est tout pour les drive-through ?
Ouais, on peut passer à la course.
Oui, on va passer à la course. Et revenons d'abord sur les qualifications. Et cette semaine, c'est pas un abonné à la place du con, c'est Kamui Kobayashi.
En fait, la place du con, le concept, c'est quoi ? En fait, c'est le dernier hors Caterham.
Voilà.
D'accord.
Mais faut quand même dire que la place du con, à l'origine, c'était vraiment un jeu de mots pur et simple. On espérait que ça durait pas longtemps. Et malheureusement, ça fait 3 ans
voilà.
que, à part de rares exceptions et de rares coups d'éclat des Kiko Valainen, la place du con, elle est toujours là.
Donc cette semaine, en effet, c'est Kamui Kobayashi.
Oui, je crois qu'il s'était arrêté avant même la fin de la qualif.
Ouais, il était à pied en fait quand on l'avait vu. Il était dans le stand.
Ouais.
Mais ils avaient, enfin de toute façon, Sauber ce week-end, ils avaient pas de rythme, ils étaient pas contents.
Ils ont fait n'importe quoi en course aussi.
C'est pour ça qu'il faut relativiser toujours les performances parce que c'est vrai que ce qui est valable un week-end ne l'est pas forcément le week-end d'après. On a vu Sauber très solide. Si on suit seulement au résultat de la Monza, on pourrait très bien se dire ah bah Sauber, ils ont fait une mauvaise course. Oui, mais en même temps, ils sont plus habitués à se qualifier à cet endroit-là et puis bah il suffit qu'ils se soient moins réglés, qu'ils aient pas la performance sur ce circuit-là, bah ça marche pas.
C'est pas du tout le même type de circuit non plus. Hein.
Voilà,
ça joue
pour
beaucoup,
ça que
je pense.
Quand on fait par exemple on a eu un débat sur les performances de Lotus faut aussi tenir compte c'est pas forcément un paramètre, il peut y avoir plusieurs paramètres qui expliquent des contre-performances.
Enfin là si ça commence
après la constante quand même au niveau des performances de voitures, c'est que quand même McLaren a l'air d'être là sur tout le type de tracé en ce moment.
Là en ce moment ouais.
Bah, c'est la voiture qui
c'est
domine.
C'est la voiture en ce moment. Sinon en Q2, alors on a Bruno Senna qui n'a pas fait de temps parce qu'encore une fois parce que il s'est pris quand même pas mal de fois hein. Okay. Le mur. Quasiment d'ailleurs toujours au même endroit.
Visiblement, lui, il n'y avait pas de dégagement.
À cet endroit.
Cet endroit-là, il aurait bien voulu qu'il y ait 3 mètres.
Il se quand on voyait les Hamilton ou Vettel passer là, vraiment au millimètre, on se disait, mais là, on est sur un autre monde avec ces deux-là.
Mais il nous a fait une Petrov. Hein. Ce Petrov l'avait fait juste avant au même endroit avec la même sanction et 10 minutes après, Senna, même virage, même sanction, tac, entre stands. Mais c'est parce que, mais il l'a reconnu lui-même, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a dit, voilà, j'ai voulu trop attaquer, j'ai voulu trop en faire et bah, je suis allé au tas, quoi. C'est son défaut à Bruno Senna, c'est que je pense que il voit qu'à côté, il y a Maldonado qui fait des performances où ça peut peut-être paraître facile et qu'il essaye de surcompenser et donc, du coup, bah, un peu comme Grosjean. Parce que Grosjean, il a aussi un peu fait ça en qualif, voilà, ils sont un peu des frayeurs en voulant peut-être aller un petit peu trop vite en besogne.
D'ailleurs, Grosjean peut remercier le type de barrière là, un peu spécial.
Oui, il était pro.
Oui.
Timo Glock aussi d'ailleurs.
Par contre, pas Gartiquet, hein.
Non. Si je me trompe pas, c'est Timo Glock en course qui se tape le Tech Pro à l'entrée du tunnel et il finit quand même 12e. Quand même, la Marussia a de très bonnes suspensions en arrière.
Donc 15 et 16, donc je disais, hein, Ricciardo et Vergne sur Toro Rosso, c'est assez habituel, hein, de leur part. Perez, donc il fait que 14, comme tu disais, hein, c'était pas extraordinaire. Hein. Massa 13. Raikkonen 12.
C'est devant Perez, ça va.
Oui.
En termes de résultats, c'est meilleur.
Oui, mais il n'y a pas que Perez qui le menace, tu sais, donc. Bon, Raikkonen 12, déception, même si là encore, c'était pas le week-end des Lotus, encore une fois.
Ils sont partis apparemment dans une... Ils étaient à 2 secondes vendredi.
Oui, il fallait 2 secondes.
Ils sont partis en fait sur une hauteur de caisse qui était pas bonne. Ils avaient trop anticipé les boss en fait.
Ah là, et, vendredi, quand je... oui, qu'il faudrait qu'on... Oui. Il nous manque 2 secondes.
Oh, c'est quand même déception parce que je le voyais quand même maintenant devant Grosjean en qualification, maintenant que Grosjean était destiné au rang de pilote numéro 2.
Ouais.
Donc je voyais bien l'équipe travailler très beaucoup plus sur les réglages de Kimi que celle de Romain.
Et... Mais non, apparemment, il... En tout cas, à ce niveau-là, c'est égalité. En tout cas,
après, c'est un circuit qui est pas très représentatif non plus des vrais cas.
Non.
On verra plus les astuces du cas.
Et même en termes de mentalité, enfin, c'était assez étonnant. C'était de voir un Kimi limite blasé en fait. Alors quand même, le mec, il pourrait être énervé, mais
bah, quand tu sais bien que c'est pas des blasés. Kimi,
oui, voilà, mais toi, mine de rien, quand même, c'est, tu sens un Kimi blasé. De l'autre côté, tu sentais quand même un Grosjean qui a eu un vendredi lui aussi un peu difficile. Voilà, c'était 15e, je crois. Donc c'était pas non plus terrible, mais il a continué d'y croire et puis bah finalement bah il s'est qualifié devant son coéquipier, il a montré un meilleur visage en qualification, en course il a quand même dû laisser passer son coéquipier, donc voilà, mine de rien, à un moment donné il faut aussi avoir le caractère et du mordant, et là Kimi, je trouve qu'il a, j'ai pas l'impression dans son discours en tout cas qu'il ait un discours véritablement de gagnant.
Moi je suis d'accord avec ça, mais bon, que cela ne tienne, moi je vois jouer le titre dès le début de la saison l'année prochaine par contre.
Ah bah,
s'il est chez Lotus.
Si la voiture
se maintient, oui. Parce que en fait, il lui manque juste, faudrait juste qu'il retrouve un petit peu son niveau de qualification d'antan où il est tombé sur des gros morceaux quand même, comme Ney Montoya qui était un peu le roi de la pole position à l'époque. Il a quand même réussi à le battre en qualification souvent. Après, Massa était pas mauvais non plus en qualification à l'époque, donc il est quand même tombé sur de bons équipiers. S'il arrivait à se qualifier sur les deux premières lignes, je pense qu'après son agressivité habituelle en course pourrait l'amener à des bien meilleurs résultats. Donc l'année prochaine, je le vois jouer le titre, parce que là cette année pour moi je le vois pas jouer le titre.
C'est parti. Juste.
Ouais. Il est pas assez fringant.
En 11e place, Nico Hülkenberg sur sa Force India. Presque un résultat décevant pour la Force India ce week-end.
Oui.
Non, ça va, c'est... pour la Force India, c'est
moi, je
bien.
Le voyais quand même en Q3, Hülkenberg, hein, vu les performances en essai libre.
Et donc en Q3, alors, les deux Mercedes qui n'ont pas fait de temps, donc, Schumacher 9, Rosberg 10.
Et donc, ils ont eu le choix des pneus.
Bravo.
Grosjean, il fait 8, comme on disait, hein, voilà, il a fait mieux que son coéquipier. Weber 7.
Décevant.
Donc, je disais...
C'est une constante chez Weber, malheureusement.
Di Resta 6. Pas mal.
Ouais, là, c'est une belle performance, par contre.
Ouais. Bah, surtout après Monza, où il avait fait 4e. Là, il refait 6e. Ça fait 3 fois de suite qu'il est en Q3.
Mais il aime bien ce circuit, je pense, parce que l'année dernière, il avait fait un très bon résultat aussi, si je me souviens bien.
Alonso, qui nous fait une 5e place.
C'est sa place.
C'est sa place. Voilà. C'est son numéro, c'est sa place.
Vous pouvez pas espérer grand-chose de mieux sur la physionomie. Enfin, oui, vous pouvez... Étant donné que Weber était derrière, il pouvait espérer la 4e place. Mais il y avait un invité.
Oui, il y a eu un invité. Donc 4e Button, Vettel 3, ça aussi c'était quand même un peu... Parce que bon, sur les essais libres, il a quand même été devant tout le vendredi, ouais. et le samedi matin.
Enfin, c'est pas surtout le fait qu'il soit 3e, mais c'est surtout l'écart avec Hamilton, 5e,
oui.
C'est quand même énorme. Hamilton, il a quand même fait un tour incroyable. Je pense que c'est une de ses plus belles qualifications.
Mais par rapport à tout le monde, parce que tu prends Maldonado qui fait...
Oui, par rapport à Maldonado aussi.
Il met 4 dixièmes aussi, donc...
Mais à la limite, encore, quand tu vois l'écart entre Maldonado et Hamilton, c'est pas non plus... Enfin, par rapport à Maldonado, c'est pas non plus indécent, même si Maldonado est costaud.
Il est bon au qualif, quand même.
C'est, je pense que vraiment, c'est vrai que Hamilton a fait un super tour, et Vettel, enfin... nulle part, enfin lui-même, enfin s'expliquait pas pourquoi il avait pu faire que troisième alors
qu'en même temps quand on voit Weber, on se dit que c'est pas si mal.
Théoriquement minimum c'était la troisième ligne quoi, donc c'était la première ligne ou la troisième ligne.
La première ligne.
Oui, la fatigue, il est tard.
Donc Maldonado 2 et donc Hamilton, on l'a dit premier. Oui.
Tu nous as fait la dernière fois tu nous as fait Maldonado 12 et là Maldonado.
Maldonado 12 et Maldonado 2.
Mais en fait, ils ont repris, c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'ils ont repris quasiment la même configuration qu'à Barcelone. Et là, tu dis, ah ok, d'accord.
Oui, parfois.
Et ils ont été super performants, quoi.
Maldonado était super performant.
Oui. Oui. Non, Senna aussi, Senna aussi.
Maldonado, déjà, il s'est pas pris de mur, en tout cas pas en qualif.
Oui. Ouais, après, on est bien d'accord. Maldonado, c'est c'est le leader de cette équipe. Mais Senna aussi était par rapport à ce qu'il fait d'habitude, il était meilleur. Là, il s'est pris le mur.
Je sais pas, moi, j'ai trouvé bien meilleur Senna en Belgique, en Italie, voire en Hongrie que là, hein. Quand on regarde ses courses précédentes.
Ouais. En qualif, moi, j'ai trouvé plus rapide que d'habitude.
Parce qu'il fait pas de temps.
C'était donc la 24e pole pour Lewis Hamilton.
T'as su à ton cul, Sébastien, parce qu'il revient.
La 153e pour McLaren et la 89e pour Mercedes, à une moyenne de 171,704 km/h. À noter que par rapport à la grille, alors, Pedro de la Rosa, bon, il était 24e, il a été rétrogradé de 5 places, mais bon, comme on a dit, ça change rien.
Ouais, parce que là, il l'applique quand même, la rétrogradation, donc c'est complètement con. Mais...
Voilà. Et Bruno Senna, 17e, 5 places, hein, pour changement de boîte. On va passer à la course. Et au top 10?
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Alors, il faut vous dire, le top 10, exceptionnellement, ça sera un top 10 très réduit, oui. puisque, pour être honnête, donc, vous pouvez voter à chaque fois, tout ça, c'est compté sur une base de données et compagnie. Donc, nous, généralement, on vient juste le mardi, on relève les classements, on relève les compteurs, voilà. Comme on dit, et on a pas à se vérifier. Là, il se trouve qu'il y a eu une opération de maintenance et que la base de données a été effacée durant la nuit. Donc,
on n'a pas... C'était pas rattrapable, hein, vraiment.
Mais voilà, donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les top 10 qui étaient en commentaire. L'occasion, donc, de vous encourager maintenant, par sécurité, mais aussi pour discuter avec vos petits camarades, à mettre vos top 10 dans les commentaires de l'article. Comme ça, si jamais il y a un pépin, bah, nous, on va les rechercher. Donc, du coup, on a récupéré les top 10 qui étaient en commentaire. On a demandé vite fait sur Twitter s'il y avait des gens qui voulaient nous les renvoyer, mais on n'a pas eu de réponse. Et puis, donc, il y a nos top 10. On a fait comme d'habitude. On a mis tout dans le même panier. Parce puis, on a fait le classement général.
On aurait pu faire simple, hein. On aurait pu prendre que nos 3 votes. Mais voilà, qu'il y en avait qui avaient au moins posté. Oui, au moins, ça valait le coup.
Donc, vous allez voir que déjà, il n'y a pas beaucoup de pilotes.
Est-ce que vous voulez vraiment les points? Parce que, est-ce que c'est utile de dire les points,
Oui, quand même. Juste pour rigoler.
Donc, tu veux peut-être dire que je te dise d'abord qui n'est pas dans le top 10.
Tout à fait.
On va même vous dire qui n'est pas du tout dans le top 16. Puisqu'il n'y a que 16 pilotes qui ont été cités. À noter donc que n'ont pas marqué de points. Weber, Schumacher, Perez, Kobayashi, De La Rosa, Kovalainen, Petrov et Pic. Voilà. Donc, c'est sur les points qui nous restaient, sur les derniers résultats. Sachez quand même que globalement le classement ressemble plus ou moins nous on relève les compteurs le mardi mais on regarde de temps en temps le classement et il n'y a pas non plus d'incongruité dans le classement tel qu'il est là donc
il n'y a pas donc, voilà, de classement rassurez-vous
il est assez fidèle c'est sans doute les écarts et voilà ça joue au marge je pense en 15e position nous avons deux ex-aequo Shinji. Nous avons Kartikeyan et Hülkenberg qui ont un point donc théoriquement donc théoriquement Shinji la règle c'est que le mieux placé en course
voilà est devant
donc théoriquement c'est 16e donc Kartikeyan et 15e
la place on s'en fout hein, tu sais hein. Tu peux dire
oui non mais quand même je préfère c'est tellement rare Shinji quand on a des égalités oui. Je préfère expliciter les règles comme ça tout le monde est au courant on sait jamais il suffirait que ça se reproduise un jour
tout à fait
donc techniquement même s'ils ont tous les deux un point vu qu'Hülkenberg était mieux classé en course donc Hülkenberg est 15e Kartikeyan 16e
le drôle c'est que j'ai failli mettre un point à Kartikeyan mais je me suis dit non je vais mettre Hülkenberg
c'est dommage.
Non, parce que Kartikeyan, ça fait la deuxième fois qu'il bat son coéquipier en qualif, mais là, surtout par rapport à Monza, il lui met une seconde, je crois, dans la vue.
Oui.
Et après, pourquoi j'ai mis Hülkenberg, c'est parce que je trouve qu'il a été mal payé pendant cette course. En fait, il s'est fait accrocher un peu de partout par les Sauber.
Il faut dire aussi que Kartikeyan, ce qui a joué aussi en sa faveur, c'est que comme quoi qu'il arrive, Pedro de la Rosa savait que il allait être pénalisé, qu'il allait être dernier sur la grille. En fait, il n'a pas vraiment joué la qualif. Il a fait un tour, mais il n'a pas été à fond
Alors j'ai bien
et
fait de mettre
voilà.
Hülkenberg alors.
Voilà. Donc pour noter hein, quand même, hein, donc il y a un point pour Kartikeyan Hülkenberg, le vainqueur. Ah ben, comptabilise 197 points.
Plus qu'Alonso au championnat.
Voilà, à peu près. Donc, en 15e position, en 14e position, nous avons Bruno Senna avec 4 points. En 13e position, avec 6 points. C'est obligé d'accentuer les
Oui,
écarts.
bah oui, forcément.
Nous avons Daniel Ricciardo. En 12e position, avec 11 points, nous avons Romain Grosjean.
Que t'as donné 2 points, Zaleux.
Moi, j'ai donné 1 point.
Ah, moi j'ai pas ton point.
T'as pas mon classement?
Si, mais dans le classement que tu m'as donné.
Ah non, parce que j'ai peut-être dû changer le dernier mec. Bon, j'ai changé 15 fois de classement et voilà.
C'est
Bon, c'est pas
intéressant
grave.
ça, d'ailleurs. Mais bon. Je vais
J'assume.
donner 2 points parce que dans l'ensemble, je trouve qu'il fait quand même un meilleur week-end que Kimi Raikkonen. Il n'est pas passé loin de la catastrophe en qualification en tapant. Donc il revient de loin, donc voilà. Et il revient de loin aussi parce qu'il n'a pas couru à Monza dans les deux sens. Donc oui, 2 points, voilà, pas plus.
Et il a été en bon numéro 2.
Oui, il a été un bon coéquipier.
Oh,
On peut le saluer
il a
pour
pris son
ça.
temps quand même, hein. Mais moi, je suis mauvaise langue.
Non, il a mis deux
Non,
tours, c'est bon.
mais c'est vrai que le tour est lent là-bas, donc à Singapour.
Voilà.
C'est vrai qu'on est habitué à Massa, deux virages et je laisse passer, mais là, ça fait un
Et
peu.
donc,
Et donc.
on arrive donc pas à la 11e place, mais à la 10e place ex
Execo.
aequo.
Mais.
Et donc là, vous vous rappelez la règle qu'on vous a expliquée, un hein, 10e ex
Qui est celle
aequo.
qu'on a toujours appliquée, hein. Je
Voilà,
précise, hein, c'est pas.
Shinji se défend.
C'est celle
Alexandre,
qu'on a toujours appliquée, qu'on appliquera toujours.
Alexandre, tu noteras que moi personnellement j'aurais bien adapté la règle, mais c'est Shinji qui défend.
C'est normal qu'on ait des règles et qu'on les applique.
Oui, non. Je ne vais pas te dire le contraire, Shinji. Donc, en dixième
Tu
position.
supposes des choses parce que forcément, voilà, hein.
Sauté ex aequo en 10e position avec 16 points, Timo Glock et Kimi Raikkonen. Sauf que Kimi Raikkonen étant mieux classé, c'est Kimi Raikkonen qui marquera le
Le
point
point.
de la 10e place et Glock finira 11e sans marquer de point.
Quel dommage.
Bon voilà, Alexandre, vraiment désolé.
En fait, moi j'ai hésité aussi à donner un point à Glock,
Mais t'aurais dû.
mais oui, j'aurais dû en fait. En fait, je me suis dit que s'il est si haut, c'est parce que les autres ont eu des problèmes et qu'il y a eu des safety cars. Donc c'est pour ça que j'ai
Y
pris
en a
ça.
qui ont eu des problèmes.
Bah, à noter que donc
Bah, genre
là.
les Hülkenberg, Kobayashi et compagnie qui ont cassé leurs ailerons, voilà. Et les
Oui.
deux Caterham qui ont abandonné, plus les safety cars qui ont fait que il a pu repasser devant les Sauber et la Force India d'Hülkenberg. Voilà. C'est quand même les circonstances de course qui l'amènent si haut. C'est pas seulement de son propre fait, même s'il fait une bonne course.
Mais en plus, Pic est pas très loin derrière. Pic, il prend ses 20 secondes, mais quand on regarde, Pic est pas très loin derrière.
Parce que bon, donc pour Glock, faut noter que moi je lui ai donné un point, justement, par rapport à son résultat et tout ça. Dino lui en a donné 6.
Ouais, bah
Ouais,
ouais.
donc. Hein.
Bah, ça, pour la course, je ferai la même analyse que Zal. C'est voilà, c'est pas une course sensationnelle et compagnie. Il a sans doute fait mieux, mais il sort la course au bon moment qu'il
Voilà,
fallait faire,
exactement.
quoi.
Et
Et
puis,
puis il
comme on
a
dit,
tapé au nez.
il permet quand même à son équipe d'être 10e.
Mais
Voilà.
c'est quasiment le résultat de la saison.
C'est
Mais
voilà,
c'est
quatre.
totalement inespéré parce que quand on voit le niveau de performance des Caterham en général sur la saison, sur tous les circuits, et le niveau de performance des Marussia qui sont plus proches des HRT que des Caterham, être devant en championnat, c'est quand même inespéré.
Et en même temps, ça reflète aussi un peu la physionomie du week-end où c'est quand même que en qualif que les Caterham ont vraiment commencé à devancer les Marussia, mais en course, donc elles n'ont pas réussi. Il faut dire aussi qu'elles se sont accrochées dès le départ et que lors des essais, c'était pas ça non plus. Bah, c'était vraiment, il y avait une vraie bagarre entre Caterham et Marussia. Donc voilà. Et puis je crois que l'écart en qualif, il est pas de 7 ou 8 dixièmes comme il peut être, mais là, il était de 3 ou 4 dixièmes. Donc vraiment là. Superbe Grand Prix dans l'ensemble de Marussia et c'est
Oui.
leur peut-être meilleur Grand Prix de la saison, sanctionné par le meilleur résultat. Il fallait être là, c'est sur ces Grands Prix-là qu'il faut être là. Ça avait déjà failli être chaud à Monaco, Si vous vous souvenez, je crois que c'est Kovalainen qui est devant, et puis qu'en fait, il casse une pièce. Enfin,
il s'accroche avec Button, je crois. Hein, c'est pas pour
il ça. S'accroche, voilà, il est obligé de rentrer au stand, et puis finalement, il arrive à avoir le résultat au profit de Glock, ou à faire mieux plus tard dans la saison. Donc voilà, ça tenait déjà pas à grand-chose. Là, moi, je vois pas comment Caterham va pouvoir espérer faire mieux, à moins d'une grosse course avec la tombe, ou
genre un énorme...
Oui, voilà, faut vraiment des conditions pour qu'il puisse faire 12e, voilà, va vraiment falloir des conditions assez exceptionnelles, donc des conditions de circuit urbain, voilà, c'est ces équipes là, si elles veulent gagner la 10e place, c'est sur les circuits urbains qu'il faut le faire.
Parce que techniquement parlant, il y a un besoin aéro qui est un peu moins, c'est plus sur le grip mécanique au niveau des roues. On peut compenser des carences au niveau aéro sur un circuit du type Singapour qu'on peut pas faire à Suzuka, je pense qu'ils vont se prendre une claque hein, par contre. Hein.
Oui.
Et donc, à la 10e place, Raikkonen, 16 points. Moi, je lui ai donné 2 points. Mais Dino, là, qui se plaint, il lui a donné 1 point. Alors que vous avez entendu, il a dit qu'il a failli le donner à Grosjean.
Mais en fait, non, j'ai donné à Grosjean. J'ai dû me gourer dans ton mail, parce que moi, j'ai mis Grosjean sur tous mes classements. Donc, j'ai dû me mettre dans ton classement Raikkonen. Mais en fait, c'est parce que je te l'ai envoyé assez tard, dans la nuit, notre âge.
Oui.
Du coup, j'ai dû penser Grosjean et écrire Raikkonen. Mais c'est Grosjean, en fait, que je mettais 1 point.
Mais moi j'ai reçu Raikkonen.
Dans le classement en fait il est vraiment un Grosjean.
D'accord. Donc,
en fait j'ai pas donné le point à Raikkonen.
Ok. Bon. Moi j'ai 2 points sur tout le classement parce qu'en effet on peut pas dire que les Lotus ont été très brillants. En tout cas celle de Raikkonen.
Oui.
On passe à la 9e.
Ouais, il fait une bonne petite remontée en course mais voilà.
Oui mais bon là c'est. À la 9e place il a 21 points.
Wow. Là, il y a un gap, hein.
Il y a un gap, carrément.
Là, il a 21, le mec.
C'est...
Il a 5 points d'écart.
C'est Nico Rosberg, auquel tu as donné 2 points.
Je suis tout seul.
Ouais.
J'ai pas donné 2 points, moi.
Fait...
Non, pas parce que j'ai reçu.
Ouais, non, mais c'est parce que je l'ai pas vu, alors.
Bah ouais, bah moi non plus.
Mais en fait, c'est ça, moi, j'ai récompensé la course à la Rosberg. Il nous a refait une course à la Rosberg. Il y a une course où on le voit pas trop. Finalement,
on
il est là.
Pas du tout.
Oui, ouais, non, mais à un moment donné, on le voit. Il y a deux plans où on le voit, mais mais voilà. Et finalement, bah, il termine cinquième. Donc voilà, rien à dire. Bon, il a plus de 30 secondes. Il bouchonne un peu les Lotus, mais voilà, il est là, quoi. Donc.
Ouais, je pense que c'est pour ça que je l'ai pas mis. C'est quand j'ai vu l'écart avec la tête de course, en fait. Qui lui n'a pas eu vraiment de problème de pépins, de trafic, etc.
Non.
Je vois 30 secondes de la tête de course avec autant de safety car. Non, c'est pour ça que j'ai pas mis de points, je crois. Voilà.
À la 8e place, il a marqué 24 points. C'est Jean-Éric Vergne. Et on l'a tous les trois mis 8e.
Ah, Mickaël. Moi, je pense que c'est surtout pour la réaction de Vergne que je lui ai mis des points. Parce que il l'a pris de façon très
philosophique. Ah, carrément, super pro, comme on dit. Hein.
Autant on peut s'arrêter de critiquer peut-être sur son humeur et compagnie.
Non, là, c'était parfait, là, franchement.
Sur ça la dernière fois, mais là pour le coup, voilà, bah le mec, bon bah oui, il m'est rentré dedans, bon bah qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, j'étais à terre, je vais pas m'énerver, quoi. C'est bon.
Non, il a compris que c'était dans des circonstances un peu particulières au-delà de ça, parce voilà. Qu'on voit quand même que Pérez,
enfin Vergne dit qu'il s'est excusé, voilà, bon.
Pérez quand même le coince vraiment sur la gauche de la piste, dans une partie un peu sale, carrément sur le vibreur, donc là on peut croire aussi que Vergne a vraiment anticipé. Pour sachant que l'adhérence était complètement mauvaise, donc il y a des circonstances un peu particulières. Je pense que si Pérez avait laissé plus de place, je pense pas que Vergne aurait autant ralenti non plus.
Bah, Vergne, il a dit que lui, il avait déjà freiné super tard, mais que apparemment, de toute façon, Schumacher derrière, il a expliqué qu'il y a eu des problèmes de frein, c'est les fameux problèmes de frein qu'on n'a pas encore identifié. Mais c'est pas très loin après la relance de la safety car.
Ah, c'est dans la relance, c'est juste après.
Oui, donc on peut se demander si c'est pas totalement une mauvaise préparation des freins, ce qui serait étonnant de la part de Schumacher, mais c'est déjà arrivé, donc voilà.
L'année dernière, il est monté sur Vergne, l'année dernière, il était monté sur Pérez un peu la même manière.
Ouais. Mm. Au même endroit, je crois, d'ailleurs.
C'est possible.
Je me demande si c'est pas au même endroit.
Non, c'était pas au même endroit parce que là, il y avait une longue ligne droite avant. Et l'année dernière, c'était après une bataille dans le virage d'avant, je crois.
Ouais.
Et il anticipe. Pérez anticipe.
Aussi qu'il y a pas mal de trucs qui se ressemblent hein, sur Singapour.
Ouais.
Il y a des endroits où tu dis, attends, je suis dans cette portion-là ou dans l'autre?
Allez, à la 7e place, il a marqué 60 points. Je lui ai donné 8 points. Zale lui en a donné 6, Dino 10. C'est Felipe Massa.
Felipe!
Qui s'est vachement bien récupéré l'arrière d'une voiture.
Alors là,
c'était beau.
C'est le seul truc qui justifie que ce soit dans le classement. Il fait une course, voilà, il remonte aussi grâce à la safety car et compagnie, donc voilà. Surtout, ce qui est étonnant, c'est que voilà, il finit dans les points, alors que dès le début, on se dit, bon bah lui, il fait des essais pour faire l'Alonso.
Il est obligé de passer au stand pour changer son aileron, je crois aussi.
Dès le début, ouais, il s'accroche avec je sais plus qui. Voilà, bon, c'est aussi la conséquence du fait d'être. Bah, de toute façon, personne n'a vu. À un moment donné, on s'est même dit, mais est-ce qu'il est encore en piste? Et puis, bah, à un moment donné, on a vu qu'il était encore en piste. Alors, je pense sincèrement qu'il a été super optimiste en voulant, voilà, dans ses déclarations, il dit, oh, la règle est claire, normalement, il devait me laisser l'espace, j'étais à côté. Oui, parce qu'il passe un petit peu au chausse-pied, Felipe. Et moi, s'il y avait dû y avoir une sanction, c'est plutôt toi que j'aurais puni plutôt que Bruno Senna. Surtout à cet endroit-là.
Toi, t'aurais plus puni Massa que Bruno.
Ouais. Ah bon. Oui, parce que là, à cet endroit-là, Senna, il est d'abord sur la trajectoire, plutôt sur la trajectoire de course. Enfin, ouais. Quand il se rabat, c'est vraiment un truc qui fait, qu'on fait généralement à cet endroit-là. C'est un endroit aussi où, faut quand même être starbé pour s'attendre à ce qu'on te dépasse à cet endroit-là.
En même temps, on aurait pu dire la même chose de Vettel Alonso au dernier Grand Prix, hein. Pour moi, c'est du même genre. Donc, pour moi, si Vettel était pénalisé au dernier Grand Prix, il aurait fallu pénaliser Senna. Pour moi, c'est deux endroits, où d'habitude on passe pas. Et je pense que ça faisait assez longtemps que Massa était dans les rétros de Bruno Senna, donc je pense qu'il aurait dû s'en douter, surtout vu comme il a bien pris l'intérieur au virage à gauche juste avant, dans le rétro gauche, il aurait dû le voir.
Tu fais la comparaison avec Monza, je pense quand même qu'on a vu des dépassements dans cet endroit-là quand même, il y en a eu sur le week-end.
Oui, c'est vrai que l'aspiration,
alors que là, oui, vraiment, il y en a quasiment aucun. Enfin, moi, c'est quasiment la première fois que je vois dépasser. J'en essaye des dépassements comme ça sur F1 2012, enfin, F1 2011. Mais généralement, ça se termine pas bien. Ou c'est parce que je me rappelais plus du virage. Voilà. C'est vrai qu'il est super optimiste. Il n'y avait pas eu de sanction et je trouve que c'est normal. Je dis juste, voilà, s'il y avait eu à mettre des sanctions, moi, j'aurais plutôt, j'aurais mis plus de tort à Massa. Maintenant, il n'y a pas eu de sanction et c'est très bien parce que finalement, c'est une belle, il y a un bon redressement.
Oui,
c'est
parce
un
qu'il
super
passe
moment.
Après la finale, je crois.
Voilà, il passe derrière, il est en perdition, il arrive quand même à avoir le freinage et compagnie. Donc moi, c'est juste le moment magique de sa course où tu dis, ah ouais, Massa, putain, il est bon quand il est comme ça.
Allez, à la sixième place, il n'a pas fini la course, il marque 62 points. C'est Pastor Maldonado. Alors moi, je lui ai donné 6 points, Dino, tu ne lui en as pas donné.
Je l'ai oublié.
Mais Zaleu lui en a donné 15.
Pour la qualification, parce que ça m'a un peu surpris de le trouver là entre Hamilton et Vettel, et parce que je pense qu'il aurait pu terminer sur le podium ou au moins quatrième derrière Button au vu des circonstances de course.
Ouais.
Et même la course qu'il fait, une course la course qu'on attend de lui depuis longtemps, c'est peut-être une course potentiellement de référence pour lui dans la mesure où il était bien classé, il a pas fait de conneries. Il a pris un départ peut-être un peu timide, mais faut dire aussi que apparemment on a beaucoup insisté avant le départ pour dire tu fais pas le con.
Antoine, il est tombé sur plus fin que lui hein, quand on voit.
Oui, voilà.
Quand il essaye de bloquer un peu, il se freine dans la partie sale et donc Vettel et Button le croisent de l'autre côté. Ouais. Ils sont tombés sur des pilotes qui sont quand même d'un plus gros calibre au niveau du palmarès, au niveau de l'expérience.
Et il s'est pas excité quoi. Voilà. Il est resté sur son plan de marche. J'ai retrouvé un peu la même sérénité chez lui qu'à Barcelone. À Barcelone, il a été impressionnant par sa maîtrise tout simplement.
C'est les réglages qui sont les mêmes, c'est ça.
Voilà. Non mais je pense que c'est aussi le fait que de se sentir de sentir que la voiture est entre guillemets au niveau de la victoire qu'il peut gagner grâce à la voiture, alors que peut-être par moment cette saison il a eu tendance à vouloir compenser la voiture, sentait que la voiture pouvait faire des points, un podium et qu'il voulait aller chercher plus. Là peut-être que dans sa tête il se dit la voiture me permet déjà de prétendre à la victoire, donc j'ai peut-être pas forcément besoin d'aller chercher plus. Et c'est vrai que j'avais trouvé très mature et très très intéressant dans sa gestion de la course à Barcelone, et sur le début de course j'ai retrouvé un peu le même pilote. Et voilà, quand t'as le message radio qui dit écoute, on va devoir t'arrêter, c'est juste super cruel quoi. J'y ai pas pensé quoi, mais vraiment sinon moi je l'aurais mis aussi relativement élevé dans le classement.
Donc, au début je pensais qu'il parlait d'une autre voiture parce qu'il a mis quand même du temps à s'arrêter, il a mis un tour ou deux.
Apparemment problème hydraulique, enfin ce ne serait pas de surchauffe lié au...
Non, c'est une fuite hydraulique.
Il risquait de perdre la boîte comme Hamilton en fait.
Oui.
Ouais.
À la cinquième place, il a marqué 84 points, c'est Fernando Alonso. Je lui ai donné 10 points, Dino 12, Zaleu 8.
Moi, je l'ai mis dans le classement et pareil que Nen, parce qu'en fait, les deux font à peu près le même type de course, la course de gestion de championnat quand on n'est pas capable de jouer la victoire. Mais je l'ai quand même mis. Moi, j'ai mis Alonso dans le classement et pareil que Nen, parce qu'il est toujours devant son équipier, il l'archi domine en fait.
Oui. Et puis au final, super bonne opération, même s'il fait pas une course extraordinaire, en effet, entre guillemets, c'est pas qu'on s'y attendait, mais on sait qu'il est capable de faire ça, et pour l'instant, entre guillemets, le scénario est parfait pour lui.
Oui, et je pense que le scénario, il est parfait aussi pour le suspense. Je pense que, moi, j'avouerais personnellement que, quand j'ai vu les qualifs, je suis bon, là, il va falloir vraiment que Ferrari fasse quelque chose d'énorme pour pouvoir préserver leurs chances de titre, parce que Hamilton et McLaren sont inarrêtables. Et j'avoue que j'ai été satisfait, entre guillemets, de l'abandon d'Hamilton en me disant, bon, Hamilton va se retrouver à 52 points, mais c'est peut-être le mec le plus inquiétant, et il va devoir aller le chercher, Alonso, et il en a le potentiel. Pour moi, c'est pas fini pour Hamilton, il est qu'à 52 points.
La McLaren
domine pour moi aujourd'hui, c'est l'équipe qui domine, donc ils seront pour moi toujours là aux avant-postes devant, en sachant que bah il y a les Red Bull qui peuvent jouer leur jeu, il y a les Lotus qui peuvent venir s'inviter, voilà, pourquoi pas les Mercedes en Corée, donc voilà, Ferrari s'ils ne réagissent pas, ils vont être sur la défensive, et on aura d'un côté un Alonso qui est sur la défensive, et de l'autre côté, il va devoir regarder d'abord Vettel, et puis il va surtout devoir regarder Hamilton, qui, bah, finalement, n'a quasiment plus qu'à attaquer, surtout s'il va chez Mercedes, bah, limite, il s'en foutra des conséquences pour McLaren, il aura encore plus à attaquer. Donc, voilà, quand on a le discours de Button qui dit, ah, ça va être dur maintenant, même pour Lewis, là, pour le coup, c'est eux qui font les bluffeurs, parce que je pense qu'ils ont les armes pour revenir. Ils sont qu'à 2 victoires de retard, avec la voiture qu'ils ont, avec les possibilités de concurrence qu'il y a derrière eux. Moi, je pense qu'avec 6 grands prix qui restent à disputer, c'est pas fatal. Il faudra pas faire d'erreur en plus.
En même temps, je les vois pas vraiment complètement dominer de manière vraiment significative Red Bull, parce que là on arrive sur des circuits qui sont quand même très portés sur les qualités aérodynamiques de la voiture, et Red Bull est généralement très très forte là-dedans. Comme on a pu le voir, ils étaient bons sur Hockenheim, Silverstone, des circuits où c'est des grandes courbes. Bon, bah Hockenheim peut-être
eux,
pas,
ils
mais
tout Silverstone le temps devant, en tout cas.
Red Bull trouve tout le temps devant.
Non, McLaren, ils seront tout le temps devant.
Pour moi, ils seront, ce sera du kiff-kiff. Pour moi, ils seront au même niveau, parce que McLaren va être toujours devant, mais il y aura Red Bull qui concurrencera pour moi sur les prochaines courses en tout cas.
Rien d'autre sur Alonso?
Bah non, bah, il a fait une course.
Bah c'est vrai. Que...
Moi j'avoue, je l'ai surtout mis au classement en fait. Enfin, voilà, j'en ai fait passer certains devant. J'ai oublié Maldonado. J'ai pas mis Hamilton devant par exemple, parce que bah Hamilton il a fait qu'un tiers de la course, donc c'est toujours un peu difficile de le mettre devant.
Ouais.
Il fait de la bonne opération au championnat, mais c'est pas sa meilleure course. Puis il était pas content à la fin de la course. Enfin, il a clairement mis la pression sur Ferrari en disant il a tiré son signal d'alarme. En disant voilà, maintenant faut qu'on apporte des pièces et compagnie parce qu'on pourra pas tenir, il faut qu'il gagne d'ici la fin de saison et voilà.
4e place, 102 points. Ouais, plus de 100 points.
Ça nous rappelle les débuts du SAV, si tu te rappelles.
Jenson Button, Dino et moi on lui a donné 15 points, Zale 12 points.
Bah moi il est 12e, enfin il est 4e parce qu'il y a Maldonado devant, c'est juste pour ça en fait.
Oui.
Et pourquoi je l'ai pas mis plus haut? Pourquoi pas parce que je le voyais chercher Vettel. Aller chercher Vettel, connaissant le potentiel de la McLaren et sa faculté à gérer les fins de course. Et finalement, Vettel lui a mis 2 fois l'écart, 2 fois 5 secondes dans la vue, avant le safety car et 1 fois après. Donc non, pour moi, il a pas fait une si bonne course que ça.
Par contre, il a de bons réflexes. Ça, on l'a vu.
Oui.
Dino, sur Button.
Non, à peu près la même analyse que Zale. Ouais, une course. Pour moi, il faisait partie avec Hamilton du top 3 qui dominait la course. Donc, donc je me voyais pas le mettre plus bas qu'un Alonso, par exemple. Maintenant, oui, il fait pas une course sensationnelle. Effectivement, je suis assez d'accord sur l'analyse. Vettel était simplement plus fort. Il a pas vraiment pu le concurrencer. Alors, apparemment, il s'est plaint de ses pneus et compagnie, mais bon, voilà. Ça fait partie aussi de la course. Il pouvait pas être devant, bah voilà.
Bien, dans ce cas-là, on va passer au podium. Et en 3e place. Ah oui, c'est vrai. Je lui ai donné 12 points. Zale lui a donné 10 points. Metino lui a donné 25 points. En tout, il a marqué 131 points. C'est Paul Di Resta. Premier.
Oui.
Carrément.
Oui, parce que je pouvais pas mettre Hamilton premier parce qu'il a pas fini la course. Je pouvais pas mettre Vettel non plus premier parce qu'il y avait toujours l'inconnu de se dire qu'est-ce qu'il aurait fait si Hamilton avait été là. Voilà, donc je me suis dit là, il manque quelque chose pour juger correctement la course de Vettel. Bon, les autres derrière, je pouvais pas les mettre premiers puisque pour moi Vettel et Hamilton étaient au-dessus du lot sur le week-end. Et quand je regarde un peu les courses qui m'ont plus épaté, moi j'ai été épaté tout du long de la course de Di Resta, qui part sixième, qui est sur la même stratégie que les leaders, qui a pas fait de faute, qui est pas très loin derrière Alonso. Voilà. On s'enthousiasme des courses de Pérez qui sont spectaculaires parce qu'il part 15e grâce à la stratégie, il arrive sur le podium. Là, on a un mec qui, c'est une Force India, il se qualifie 6e, il arrive 4e. Moi, il fait une course juste splendide, quoi. Enfin, voilà, moi, c'est ce type de course, c'est ce que j'aime voir. Le résultat est peut-être moins spectaculaire, la course est peut-être moins spectaculaire, mais il a fait une course, voilà, enfin, il s'est pas écroulé, il y a pas eu de faute. Voilà, moi, je suis juste un pilote que j'aime beaucoup et là, vraiment, pour moi, il a délivré la course qu'il fallait faire et j'espère qu'on le reverra l'année prochaine, peut-être pas chez Force India.
Je suis globalement d'accord, mais en fait, pourquoi je l'ai pas mis plus de points contrairement à Dino, c'est parce qu'il partait déjà haut dans le classement et qu'on avait vu pendant tout le week-end que les Force India étaient au niveau, elles jouaient largement la Q3. Et je sais pas pourquoi, moi je le voyais chercher Alonso.
Ouais.
Ce qui termine vraiment pas loin, et connaissant Alonso, qui là, il est plutôt sur... Il se laissera pas doubler, mais je pense qu'il aurait pas résisté à Di Resta s'il avait tenté de porter une attaque, vu sa position au championnat.
C'est vrai que pendant très longtemps après la relance, il était derrière Alonso, surtout qu'il a mis ses pneus plus tard qu'Alonso.
Moi je me suis dit que ça, il va le passer. Bon,
à un moment donné, Alonso a accéléré. Alors est-ce que il y a pas non plus chez Force India eu la volonté d'assurer le résultat entre guillemets en se disant c'est notamment Vettel qui l'a dit par rapport à Hamilton, il a dit Hamilton était en croisière, mais moi aussi j'ai un peu joué l'élastique derrière parce que bon, il parlait en expérience. Vettel, il a été derrière Alonso quasiment pendant toute la course en 2010, il a dit voilà, je voulais pas être à une seconde de lui parce que je voulais pas être dans cette turbulence, je voulais pas dégrader mes pneus. Parce qu'au début, on était vraiment sur une course stratégique. Et on peut se demander si de la part de Di Resta et de Force India, ils se sont pas dit, bon, finalement, la quatrième place, c'est bien, on partait sixième. Sans les abandons, on aurait été sixième. Donc, bah voilà, finalement, la quatrième place, on assure peut-être, on dégrade pas les pneus, on finit la course. Et voilà, ils ont peut-être fait un excès de prudence et ils ont pas demandé à Di Resta d'aller attaquer, peut-être.
En même temps, l'objectif du propriétaire, c'est d'aller chercher la sixième place de Sauber au championnat.
Ouais.
Donc, je sais pas. Moi, j'aurais. Pour moi, c'est le moment où il faut être agressif.
Mais si c'est pour attaquer et dégrader tes pneus et tomber en rade de pneus à la fin, ou pour t'accrocher avec Alonso, ça, tu sais que c'est un dur à cuire.
Voilà. Non, mais justement, je pense qu'Alonso ne sera pas accroché et il aurait bien résisté. Puis, je pense qu'il l'aurait laissé passer.
Ouais, mais je pense quand même que dans la tête de l'équipe, je suis pas sûr que ce soit un facteur. Nous, on le prend le facteur parce qu'on n'a pas d'enjeu, mais je pense que sur le coup, peut-être que l'équipe s'est dit finalement les points de la quatrième place nous conviennent
très bien.
Ils sont
suffisants et en passant troisième, on en a que trois voilà. De plus. C'est possible.
Je pense qu'effectivement, ils se disent peut-être sur le long terme, on va réussir à avoir Sauber quoi. Donc
ça, vous y croyez en tant que
non.
Il y a 26 points.
Est-ce que déjà vous pensez que Sauber peut passer Mercedes?
Je pense pas parce que Mercedes est quand même assez régulier.
Ouais.
Là où Sauber, ils ont quand même construit une grande partie de leur capital grâce à des coups d'éclat. Mmh. Là où Mercedes, bah, c'est pas brillant Mercedes, mais ils sont régulièrement 8e, 7e, 6e, 5e. Donc voilà, ils prennent quand même des petits points un peu partout.
Sur ces trois équipes-là, je pense que oui, les positions vont pas changer.
Après,
voilà, bon, en toute fin, mais peut-être juste un échange, mais vraiment à la toute fin, quoi. Et il faudrait vraiment qu'une des équipes s'effondre.
Après, c'est vrai que Force India aujourd'hui, ils, un peu comme McLaren, ils sont bons sur tous les grands prix depuis la reprise. Là où c'est pas le cas chez Sauber, ils ont l'air assez sereins. Les pilotes sont motivés, sont tous les deux aujourd'hui dans le coup. Donc effectivement, peut-être envisager, là tu disais 25-26 points de retard sur Sauber, s'ils prennent à chaque Grand Prix 4, 5, 6
oui, voilà.
points de plus que Sauber, avec un ou deux coups d'éclat, c'est ce que disait d'ailleurs avant le Grand Prix Vijaymalia, il disait voilà, avec un ou deux podiums peut-être, on peut repasser devant quoi. Donc ça sera, je pense, le match à suivre. Moi je regarderai plutôt le match Sauber Force India que Sauber Mercedes.
Mm. Bah, de toute façon il y a Williams qui est pas trop loin non plus derrière Force India aussi, attention.
Bah c'est pareil, ouais. Ça peut parler les mêmes écarts, 20 points.
La grande question c'est Williams, faut qu'il marque des points à un moment donné.
Toro Rosso qui est un peu dans la même position cette année que Williams l'année dernière, donc au-dessus des trois dernières écuries, mais derrière, bien derrière les autres quand même.
Ouais.
Enfin, ça se voit en qualif.
Sincèrement, Williams, pour moi, c'est en termes de performance et de potentiel, c'est devant Force India et c'est devant Sauber depuis le début de saison.
Mais c'est, ils concrétisent pas.
Voilà, c'est qu'ils concrétisent pas par Maldonado. Malheureusement, Senna, il est un peu plus régulier, mais c'est des petits points qu'il va chercher. Voilà, s'ils arrivaient à concrétiser, enfin voilà, ils seraient quasiment au niveau de Mercedes aujourd'hui, Williams, sur le sol Maldonado, quoi. Donc je pense qu'ils ont une meilleure voiture, mais que l'équipe en ce moment elle est pas.
Je me souviens plus à quelle place ils étaient au soir du Grand Prix d'Espagne, mais à mon avis ils étaient pas. Ils étaient au moins cinquième, non?
Oui.
Je suis en train de regarder sur F1 Stats.
Ouais.
Oui, cinquième, juste ex aequo de points avec Mercedes.
Ouais, tu vois.
Et Sauber n'était pas loin non plus, à deux points seulement.
Et c'est vrai que là, quand on voit, quand c'est pas Maldonado, c'est l'équipe, enfin, c'est la fiabilité qui trahit l'équipe. Voilà, c'est.
Ouais, c'est des occasions gâchées, c'est dommage. Ouais.
Depuis Barcelone, Maldonado, il a pas marqué de points, quoi. C'est juste hallucinant. Enfin, là, c'est un peu comme Schumacher, quoi. C'est un mec qui a pas le capital de points qu'il mérite. Parce que, voilà, en termes de performance, ils ont été là quasiment, pas à chaque Grand Prix, mais au moins un Grand Prix.
Régulièrement, ouais, on les voit, quoi. Et parfois, quand c'était pas Maldonado, Senna arrivait à s'en sortir, donc. On va passer à la deuxième place. Et à la deuxième place, c'est un pilote qui n'a pas fini le Grand Prix. Mais s'il l'avait fini, normalement, il aurait dû être vachement bien placé. Je l'ai mis deuxième, comme Zale. Dino, tu as quand même mis 8 points. Hein. C'est Lewis Hamilton qui marque 173 points.
Je sais pas, j'ai rien à dire.
Mais moi, je l'aurais pas mis premier. Je l'aurais pas mis aux avant-postes. D'abord parce qu'il n'avait pas fini. Et puis, vraiment, pour un mec qui finisse pas, que je le mette aux avant-postes, faut vraiment qu'il m'ait donné l'impression de dominer et que c'était inéluctable. Sauf que j'ai pas l'impression du tout que c'était inéluctable. Je pense que il y avait un vrai duel, peut-être en perspective avec Vettel. Voilà. Et que finalement, on n'a pas vu les stratégies qui étaient prévues. Donc voilà. Je suis pas si certain que la victoire tendait les bras à Hamilton.
Enfin, moi, si je l'ai mis si haut, c'est surtout aussi pour sa belle qualification, parce que moi, je considère l'ensemble du week-end en général quand je fais mes classements. Et là, quand même, le niveau de performance qu'il a atteint sur un tour, c'était quand même assez extraordinaire.
Ah bah moi, c'est ce qui fait que je le mets sixième dans mon classement. C'est la qualif essentiellement. C'est tellement important une qualif sur un circuit urbain. Et toi, Shinji?
Ah, mon avis?
Oui, ça nous intéressait. Ah. Tu vois, assez bizarrement, on s'est dit tiens. À qui on pourrait demander son avis? On s'est dit, bon, alors, Zal, il l'a dit. Bon, Dino, naturellement, il a un avis sur
surtout.
Surtout,
bah oui.
Voilà. Il a surtout un avis. Qui n'a pas
non,
parlé?
Mais...
Ah, dis donc.
Non, je l'ai mis deuxième. Bon, déjà pour sa pole, parce que comme on l'a dit, elle a quand même été super impressionnante, surtout par rapport à ce qu'avait fait Vettel plus tôt dans le week-end. Et puis, bon, tu dis que ça aurait pu être serré, je suis pas sûr. Je pense quand même qu'on était parti vers un cavalier seul d'Hamilton sur toute la course. C'est aussi pour ça que je l'ai mis jusqu'à la deuxième place.
Oui, c'est vrai qu'Hamilton, il a dit ouais, j'étais en mode croisière. Mais ça, en même temps, c'est tous les pilotes.
Oui, non, mais ça, ils le disent tous. Mais il était en train de le faire.
Ouais, ouais, mais en même temps, il a pas non plus vraiment fait la différence.
Son écart n'a jamais dépassé 2 secondes.
Voilà, donc. Comme le dit Vettel, il le dit, le début de course a été très stratégique parce qu'effectivement Hamilton était un peu en mode croisière. Et puis lui Vettel disait moi je voulais pas être non plus trop près parce que je sais justement par expérience que être trop près c'est pas bénéfique et que ça pouvait ruiner ma stratégie. Donc on a vraiment l'impression d'avoir un début de course où les pilotes se regardaient. C'est vrai que moi c'est justement ce qui fait que j'ai pas pu mettre Hamilton premier. Ou en tout cas sur le podium, dans mon classement, c'est de me dire voilà, finalement on n'a pas vu la course qu'on aurait peut-être pu voir.
Mais après, sur un Grand Prix aussi étouffant, il faut quand même aussi, même si c'est pas un Grand Prix très exigeant pour les moteurs, il faut le préserver au niveau du refroidissement et quand on est derrière une voiture. Ouais. Sachant que je pense que Vettel est ric-rac, non, pour la fin de la saison, à ce niveau-là, non?
Oui, et puis il y a quelques petites craintes en termes de pièces.
Encore.
Ah, on sait très bien que c'était très tendu chez Red Bull derrière circuit des safety cars.
Dans ce cas-là, passons à la première place. Il a marqué 197 points. Je l'ai mis premier, comme Zale. Et Dino, tu l'as mis deuxième, donc forcément, c'est Sébastien Vettel qui a gagné la course.
Ouais.
Oh, j'ai rien à dire.
Il a gagné la course. Et voilà. Je suis très content, c'est une victoire qui me fait plaisir parce que...
Pour le championnat, c'est bien.
Bah, pour le championnat, c'est bien, et puis pour lui aussi. Enfin, voilà,
c'est sa première victoire depuis Bahreïn, quand même.
Ouais, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il fait une bonne saison. Il a pas la meilleure voiture, mais il voilà,
oui,
il s'effondre pas, il est pas en train de s'énerver. Enfin, on pouvait s'attendre à ce qu'il s'énerve, et bah mine de rien, il est un peu comme Alonso, il est là, il a pas forcément fait d'énormes résultats, mais il est là, il est en embuscade, et moi je trouve ça plutôt bien. Et c'est vrai que sur la fin de saison, comme tu le disais tout à l'heure, Zaleu, ça va être pas mal aussi pour eux. J'espère qu'en tout cas ils vont pouvoir se mêler à la lutte. Et effectivement, avec McLaren, avec eux, avec Alonso, ça peut donner une fin de saison assez passionnante. Un duel à 3.
Ouais, bon, Vettel, il a quand même perdu des gros points. Je pense qu'il serait beaucoup plus proche d'Alonso sans la mésaventure avec Kartikeyan en Malaisie, et puis sans l'abandon. Là, qu'il a perdu une quatrième place et une victoire. Hein. C'est 37 points. Donc là, il serait dans les roues d'Alonso.
Si on fait vraiment le calcul sur les points qu'ils auraient pas, que chacun aurait perdu, on aurait Vettel et Hamilton qui seraient
bien plus haut, oui.
Bien plus haut, peut-être même loin devant les autres, et on aurait un duel Vettel-Hamilton.
Ou avec Alonso, je pense qu'il serait quand même bien placé.
Ah ouais, Alonso, mais Alonso finalement,
mais
en dehors de la Belgique, on peut pas lui retirer plus de points que ça, quoi. Donc Alonso, à la limite, il aurait 10 ou 12 points de plus. Là où Hamilton Vettel, on tape très vite dans les 20, 30 points de plus, quoi.
Oui. Au classement du SAV, bien Alonso est toujours devant avec 200 points. Devant Vettel, 163, Hamilton 161, Raikkonen 150. Au classement des équipes, pardon, McLaren passe devant, 278, devant Red Bull 274, Lotus 252, Ferrari 250.
Eh ben, j'espère que ça va rester comme ça, parce que peut-être que McLaren, eux, ils vont répondre quand on leur enverra le diplôme.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Moi, je vous le dis. Moi, je veux que ce soit aucun des Red Bull qui gagne au classement du SAV. On leur a envoyé 2 diplômes, fait main, fait maison, l'année dernière, et pas de réponse, rien, pas d'accusé de réception, que dalle. Je sais que McLaren et Ferrari, s'ils sont champions, ils nous répondront. J'espère.
Dans l'autre classement, eh bien, Fernando Alonso est devant, 194 points, devant Vettel, 165, Raikkonen, 149, Hamilton, 142, Weber, 132, et Button est à 119. Oui?
Non, vas-y, tu allais le faire.
Et ils ne sont plus que 11 à pouvoir être titré.
Dont Paul Di Resta.
Paul Di Resta, si jamais il gagne toutes les courses et que Alonso marque 0 points.
Il s'est sauvé les miches, hein, quand
carrément,
même, son résultat. C'est l'une des raisons aussi qui fait que j'ai mis premier. C'est que, voilà, c'est qu'il reste dans la lutte pour une course. Il reste dans la lutte.
Et Schumacher, pour un petit point, n'est plus à la lutte au titre. Chez les constructeurs, c'est Red Bull qui est devant, 297, devant McLaren, 261, Ferrari, 245, Lotus, 231. Et malheureusement, Toro Rosso ne pourra pas être champion des constructeurs cette année.
Après ce Grand Prix, moi j'ai l'impression qu'on a perdu 2 des 5 prétendants au titre.
Weber et Raikkonen, oui.
Bah, surtout Weber, parce qu'il est quand même au niveau des points, il a plus de 2 victoires maintenant. 2 victoires et une 3e place, non, c'est pas ça. Il a combien de points de retard? Il a 60 points.
Weber, 132, ça fait 62 points.
Oui, c'est ça.
Hein. Plus de 2 victoires.
Donc ça oui, moi je vois pas là. Surtout que je vois bien là Vettel le dominer sur la fin de la saison, parce que Weber à chaque fois il s'écroule sur les fins de saison. Comme on a pu le voir en 2009 et 2010.
C'est que Button il est à 75 points en 2-3 courses, il peut se retrouver mathématiquement sorti. Hein.
Oui.
Même si c'est vrai que lui a une McLaren.
En fait Weber et Button, je les vois bien jouer la deuxième place si la voiture est performante, mais je les vois pas aller chercher Alonso. Ils peuvent encore battre leur équipier.
C'est ça le truc, c'est que Button, c'est là où il est un peu gênant pour McLaren, c'est que Button, tu peux pas aujourd'hui lui demander de céder parce que
il est loin, mais en même temps pas assez pour que voilà on puisse.
Puis même si tu regardes la physionomie des dernières courses, il a quand même fait une victoire, une pole, voilà donc il est quand même là quoi qu'il arrive, il est là donc.
Globalement depuis l'Allemagne, depuis l'Allemagne, 2 deuxième places, une victoire, bon.
Il y a eu des messages de la part de Martin Whitmarsh, week-end, qui a dit, Button aidera Hamilton, mais seulement si Button en a envie, nous on lui demandera rien, c'est à Button de choisir.
D'accord.
C'est très envie de te dire.
J'ai l'impression que là, la déclaration d'après-course, il était plutôt sur ce mode-là, hein, Button. Je vais aider mon coéquipier.
Ce message quand même, voilà, on va laisser Button choisir, c'est Button qui va choisir. Quand on sait un petit peu la manière dont les relations un petit peu évoluent, on se dit, est-ce que vraiment Button va vouloir aider Hamilton à être champion? Surtout s'il se barre chez Mercedes.
Oui.
Puis Button dans la foulée a déclaré, oui, ça va être très dur pour moi et Lewis.
On va passer au fait marquant. Donc on vous rappelle, hein, donc quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Italie? Vous avez été 83 à voter, merci comme d'habitude. Merci à ceux qui ont voté pour le top 10, même si malheureusement cette semaine, voilà, il y en a une partie qui sont partis aux oubliettes, faut bien le dire.
On vous rassure, hein, c'est un problème, c'est vraiment une mauvaise manip, donc du coup, c'est pas un problème qui va se reproduire
non,
dans les
médias. Oui, c'est... Donc... ça arrivera peut-être que dans 2-3 ans, quoi. C'est pas...
Donc voilà, donc n'hésitez pas à revoter dans les prochaines émissions et surtout à mettre vos classements en commentaire, comme ça, bah, déjà ça vous permet de partager avec les autres
auditeurs.
Puis nous,
on peut le récupérer au cas où.
Puis nous, on peut le récupérer en cas de pépin, voilà, votre opinion comptera d'autant plus qu'on aura la main, sous la main, quoi.
Alors, donc, au sondage de la dernière émission, est arrivé troisième, 16 votes, 19,28%, sans Grosjean, Alonso retrouve son écart de points au classement.
C'était qui ça?
C'est pas Jackie?
Ah, peut-être, ouais.
Est arrivé deuxième, avec 33 votes, 0 pointé pour Red Bull, 39,76%, et pour un petit vote, 34 votes, 40,96%, Speedy Perez frappe encore.
Ah, c'est moi, ça.
Ça, c'est toi, ça.
Ouais.
Et moi, je suis au milieu.
Ouais, j'en gagne une, ouais.
Donc, dans ce cas-là, c'est bien que c'est à Zaleux de choisir.
Good luck.
Romain Grosjean termine une course et ne touche personne.
À cash direct.
J'ai bien envie de mettre Schumacher qui s'oublie sur Vergne. C'est à toi.
Je mettrai Glock, virgule, une 12e place qui met du beurre dans les épinards.
Donc, pour le sondage de cette semaine, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Singapour 2012? Vous aurez le choix entre Glock, une 2e place qui met du beurre dans les épinards, Romain Grosjean qui termine une course et ne touche personne, ou bien Schumacher qui s'oublie sur Vergne. Donc, pour voter, vous avez sans doute même déjà voté, puisque c'est dans l'article consacré au SAV de la F1 du Grand Prix de Singapour.
Et en parlant de vote, Shinji.
Oui.
Parlons de vote. Puisque nous sommes en lice pour les Golden Blog Awards.
Oui, oui, c'est vrai.
Voilà, dans la catégorie podcast. Mm-hmm. Donc voilà, donc c'est une cérémonie, un petit peu comme les Emmy Awards.
Ouais.
Avec Homeland qui a tout raflé. Ouais. Et donc voilà, vous pouvez voter pour nous. Donc normalement, en bas de l'article sur FanF1, vous aurez un petit module pour voter. Voilà, vous pouvez voter une fois par jour. Vous pouvez faire voter vos amis. Vous pouvez, voilà. Donc si vous aimez le SAV, vous votez pour nous. Voilà, vous pouvez faire ça. Ça va durer jusqu'à fin octobre, je crois. Voilà. Et donc sinon, vous allez sur savf1.fr. Vous avez pareil, le petit bouton de vote tout en haut de la barre latérale sur le site savf1.fr. Ou vous allez sur le site des Golden Blog Awards. Voilà, il y a plein de sites. Et notamment, on peut citer le site d'Elder, esilaf1.wordpress.com, qui est en lice dans la catégorie sport, je crois. Et aussi, on peut, bon, même si c'est un concurrent, je crois, citer podcastfrance.fr, qui est en lice dans la catégorie podcast. Mais bon, ça, vous votez une fois, mais pas tous les jours. Alors que nous, vous votez tous les jours.
Voilà.
Disons, voilà, nous votez tous les jours, et puis podcastfrance.fr, vous votez une fois par semaine, voilà, quand on publie le SAV, voilà.
C'est salaud,
parce que quand même, non, mais on les aime bien, mais c'est quand même nos rivaux. Mais mais j'aime beaucoup Podcast
en plus,
France,
oui.
D'accord? Je suis très reconnaissant envers eux, mais maintenant on est rivales, quoi, c'est faut arrêter. Bon, s'ils sont dans une autre catégorie, vous votez tous les jours pour eux aussi. Mais sinon, vous votez une fois par semaine. Merci.
Dino, on va passer au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors Dino, rappelle-nous quelle était la question du concours.
Alors, la question du concours, là, il y a 15 jours, a été posée par Germain et était la suivante. Quel est le seul fabricant de chewing-gum, entre autres, à avoir sponsorisé une écurie de Formule 1 par l'intermédiaire d'une marque de boisson, et quelle a été cette équipe? Alors, est-ce que vous avez la réponse?
J'en en ai pas la moindre idée.
J'ai peut-être une idée.
Laquelle?
Schweppes, chez McLaren dans les années... Enfin, chez les... McLaren, fin des années 90.
Alors, effectivement, c'est donc Cadbury, hein, qui appartient à Schweppes, et... Hollywood Chewing Gum, qui a sponsorisé McLaren dans les années où t'as dit fin 90, début 2000. Mais en fait, c'est une bonne réponse, mais c'est pas la bonne réponse, puisqu'on pourrait également citer Mad Crox, qui est sponsor de Sauber, ou a été sponsor de Sauber, qui est une boisson énergétique, mais qui fait également des chewing gum.
En fait, il y avait deux bonnes réponses, en fait.
Donc en fait, il y avait deux bonnes réponses et il se trouve que qu'il y a une personne qui a répondu, qui n'a pas répondu la réponse proposée par Germain, à savoir Cadbury et McLaren, mais qui a répondu Matt Crox.
Ah bah oui, donc oui, c'est bon.
Et après vérification, effectivement, sur le site de Matt Crox, on voit bien qu'ils font des chewing-gums. Donc on va féliciter pour sa réponse, sa témérité, et surtout, on sent qu'il a étudié le dossier. On va féliciter Adelin,
bravo,
qui nous a donc parlé de Matt Crox Energy, qui était sponsor de Sauber. Donc Shinji, tu connais le principe.
Oui.
Tu as le droit de te faire aider de Zaleo si tu
tout
veux.
Tout à fait.
Donc monsieur, attention, je vous lis la question, qui est une question sur le Japon. Le pire, c'est que je vais la découvrir en même temps que vous, parce que je ne l'ai pas lu cette question. Donc attention, c'est la question à laquelle vous allez devoir répondre. Quel est le résultat de la division de la somme des numéros des quatre virages qui encadrent le pont de Suzuka par le nombre de victoires remportées par le pilote le plus victorieux à Suzuka?
Oh putain.
Donc en fait, on va traduire la question.
Vous prenez le pont à Suzuka.
Voilà. Alors attends, je vais prendre le circuit là en face, parce que sinon c'est pas fini.
Vous prenez le numéro des virages qui encadrent le pont, donc le virage avant le pont.
Le problème c'est qu'à Suzuka il n'y a pas de numéro, c'est des noms.
Oui, mais vous trouverez sur Wikipédia, il y a des trucs avec les numéros, donc vous prenez les numéros sur Wikipédia. Voilà. Donc vous faites la somme de tous les des quatre virages qui encadrent le pont. À la fois quand vous passez en dessous, le virage d'avant, c'est dénié. Puis après c'est l'épingle d'après, puis quand vous repassez en dessous, il y a 130 R et puis voilà, vous prenez ces quatre virages là, vous prenez leurs numéros, vous faites la somme. Et vous divisez cette somme par le nombre de victoires remportées par le pilote le plus victorieux à Suzuka. En tout cas, on va vraiment féliciter Adler parce que moi j'adore cette question. Donc voilà, pour répondre, on vous rappelle, c'est concours@savf1.fr. Vous avez donc une quinzaine de jours jusqu'au Grand Prix du Japon. On enregistrera théoriquement le mardi. L'horaire sera précisé dans l'article et compagnie. Donc voilà.
Et donc comme tu l'as dit, dans deux semaines, le Japon. Et alors, vous auriez mauvais goût, parce que le Japon, c'est une magnifique piste, c'est une belle course, il y a vraiment des raisons de regarder. En plus, c'est le matin.
Même si vous n'êtes pas fan de Formule 1, vous avez des goûts de chiottes.
Voilà. En plus, c'est le matin.
On a testé ça.
C'est le matin, sachant, tu vois, c'est simple, c'est très sympa, prendre son petit déj et regarder une course de F1, c'est génial.
Ah, mais alors, sincèrement, moi, j'arrive dans la période de l'année que je préfère. Ah, les courses du matin.
Écoute,
c'est me lever.
T'es là, tu prends ton truc, tes croissants, machin, t'as la F1 devant toi.
Te lever à 5h du mat, voilà.
Ça, c'était le cas pour l'Australie, mais là, c'est quand même plus 8h.
Oui, c'est plus 8h quand même.
Non, mais pour les essais.
Oui,
c'est vrai. Voilà, non, mais voilà, il faut se lever pour les essais, c'est ce qui est drôle.
Et si vous...
Même s'il pleut et qu'il y a des petits bateaux et que tu vois que dalle, au moins, t'es là.
Oui. Oui, en plus, c'est vrai que quand il pleut, la course, elle dure jusqu'à midi, c'est génial. Et si vous avez des good shots, parce que vraiment, c'est avoir des good shots, eh bien, le SAV de la F1 est quand même là pour vous. Et Zaleu est là pour vous.
Exactement. Donc, la première chose à faire, vu l'heure de la diffusion, ça sera dormir, hein, évidemment. C'est la chose qui vient le plus rapidement à l'esprit. Après, si on se lève et qu'on veut regarder la télé et qu'on ne veut pas regarder le Grand Prix, du coup, il y a pas mal de téléboutiques achats sur des chaînes que je ne citerai pas. Donc là, on peut évidemment prendre son pied parce qu'évidemment, ce sont des superbes produits. Donc, notamment, on peut essayer de trouver un mankini.
D'ailleurs, en parlant de superbes produits et de téléachats, je vous invite vivement à chercher sur Dailymotion la vidéo de présentation du livre du dossier Michel Vaillant Ayrton Senna qu'on avait fait pour le concours Top Proposition. Voilà, avec la description par Shinji, c'est juste un moment extrêmement savoureux et voilà, c'est juste voilà la magie de la voix de Shinji, etc. C'est la vidéo du concours Top Proposition premier du nom et voilà c'est.
Rien que pour la description, ça.
Voilà.
Et
la
le
description.
Truc qui tourne.
c'est, on vous racontera même pas quelle complexité ça a été de tourner. Mais voilà, juste pour le texte et la manière dont c'est raconté par Shinji, c'est tellement télé-shopping.
Ensuite, direction Dijon. Parce qu'il y a Radio Dijon Campus qui fête ses 30 ans et qui organise pas mal de soirées. Après, on va vers l'ouest.
Ils organisent des soirées le dimanche matin à 8h.
Non, mais ils organisent des soirées pendant toute la semaine. Et c'est le dernier jour de soirée. C'est le dernier jour de fête, pardon. Et donc, on ne sait pas ce qu'ils vont nous préparer. Donc, ça peut être très intéressant. Ensuite, direction l'ouest, en Indre-et-Loire, où on pourra assister à un grand prix. Et ce sera le grand prix de la Fédération française d'échecs.
Ah oui, ah oh oui.
C'est ça, ça se passera dans un château à Villandry. Donc un cadre magnifique, verdoyant, luxuriant même. Donc à faire.
Mais c'est des endroits où tu as des intérêts ou
Moi,
ou c'est juste comme ça?
pas vraiment.
Voilà.
Nous serons en octobre pour ce Grand Prix, parce que ce sera le 7 octobre,
Oui.
l'automne sera là, nous allons vers les vacances de la Toussaint, donc vers Halloween, donc à Mauzac en Auvergne, c'est la fête du potiron. Donc à faire.
Mais il a super bien
Elle est
bossé, moi
super bien
j'adore.
bossée.
Vous savez qu'avec le nouveau gouvernement, il y a pas mal de centrales nucléaires qui risquent de fermer. Et ce jour-ci, le 7 octobre, dans le Tricastin, dans le Vaucluse, on pourra visiter la centrale nucléaire EDF. Ce sera le 7 octobre également. Et
Et qu'un
enfin,
petit peu de chance, vous aurez un petit feu d'artifice.
pour les fans de foot pour les fans de foot qui ne sont pas fans de Formule 1, ils pourront se préparer psychologiquement pour le Classico OM-PSG, donc à Marseille. Donc en fait, on peut faire un petit tour de France comme ça avec toutes ces sorties pendant toute la journée et pour finir sur Marseille en fait.
Mais
Voilà.
soyons honnêtes, quand même, le mieux, c'est de regarder la F1.
Ouais, je suis pas sûr. Non, oui, je pense que ce circuit quand même vaut le coup.
Oui.
Même si c'est pas
Pourquoi
forcément
tu n'es
le
pas
plus
sûr?
spectaculaire
Qu'est-ce que tu hésites? Qu'est-ce que tu hésites? C'est le Grand Prix des échecs, c'est des
Non,
Tricastins,
c'est la fête du
c'est PSG
potiron,
OM.
ça me tente bien.
Carrément.
Je pense que là, ça pourrait être une prochaine question dans les éphémérides de Shinji, la fondation de la confrérie du potiron. Donc c'est à Mauzac en Auvergne, hein, je répète, hein, au cas où il y a des amateurs.
Ami de Mozac.
Voilà. Et donc sinon, pour cette course, vos pronostics. Oula.
Hamilton, je crois qu'elle lui manque celle-là. Je crois qu'il n'a jamais gagné à Suzuka, ça lui permettra de compléter sa quintuple couronne avec les principaux circuits du calendrier.
Ah, pourquoi pas Alonso?
Non, j'ai dit pas Alonso, tu portes malheur.
Est-ce qu'on a eu un doublé cette saison?
Oui, il me semble. Il n'y a pas
Suis
eu
pas sûr.
McLaren?
McLaren, quand ça?
Bah oui, en Australie.
Ah oui, en Australie,
Ah
oui.
oui. Après, il n'y en a
Non,
plus, par
en
contre.
Australie, c'était Vettel le deuxième. Il avait réussi à dépasser
C'est Vettel
Hamilton
le deuxième.
juste après la safety car.
Bah non, pas eu de doublé alors.
Bon, alors voilà, je vote pour le doublé McLaren. Donc Hamilton devant Button et troisième Vettel.
Et quatrième Alonso, comme ça, il limite les dommages. Vas-y, Fernando, tu peux y arriver.
Bien, on arrive à la fin de cette émission. On vous rappelle donc l'adresse pour répondre à la question, on l'a donnée.
Oui, c'est concours@savf1.fr.
Ah, ça c'est fait maintenant.
Voilà. La semaine prochaine, il y a un mag. Si vous avez des questions à poser au répondeur, l'adresse c'est répondeur@savf1.fr.
Et d'ailleurs, nous vous invitons sur le répondeur à nous poser des questions sur le droit constitutionnel et sur, puisque on aura peut-être un expert maintenant,
Non,
puisque
oui, bah oui.
Fab a eu son master 2, donc voilà, félicitations à Fab.
Félicitations.
Et donc, si vous avez des questions sur le droit constitutionnel, notamment en situation de crise, nous aurons un expert sur place, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, même sur
Voilà,
le
par
droit
exemple,
constitutionnel de la
il
F1.
y a une crise chez McLaren, Hamilton part. Est-ce que
Voilà.
constitutionnellement, il y a un souci de droit? Eh bien, voilà, il peut
Voilà.
répondre à cette
N'hésitez
question.
pas à nous poser des questions,
Moi, je dirais
bien
plus pour les droits
évidemment.
de massage chez Ferrari, hein.
Bien évidemment, comme on a un expert, on ne lui donnera pas les questions à l'avance. Hein. Là, il faudra qu'il nous réponde directement. Donc voilà, n'hésitez pas, vous aurez un expert sous la main qui ne connaîtra pas les questions à l'avance. Donc vraiment, là, vous pourrez le prendre au dépourvu si nécessaire. Bon, encore faut-il, je ne suis pas sûr qu'il veuille venir
Bah
maintenant.
non. Donc on vous rappelle, hein, comme d'habitude, qu'on est sur iTunes, donc 5 étoiles, hein, ça fait toujours plaisir. Qu'on est sur Podcast France, même s'il faut voter pour eux qu'une fois par semaine, hein,
Parce que
on les
rappelons-le, il faut voter tous les jours pour le SAV de la F1 pour les Golden Blog Awards.
Oui, parce que le SAV de la F1, c'est
La famille.
toute semaine, la famille, ça dépend. Tu sais quoi? Faudra faire un photomontage avec l'affiche du parrain. Et tu vois, le parrain va mettre le SAV de la F1, c'est la famille. N'oubliez pas, évidemment, qu'on est sur FanF1, parce que la F1 sur Internet, c'est sûr.
FanF1.com, bien sûr.
Très bien. J'ai oublié quelque chose, Dino?
Non, on peut juste d'abord remercier Zaleu d'avoir
Merci.
participé.
Je vous remercie aussi de m'avoir invité.
Au niveau de notre liste d'invités, on en est
Alors, au niveau de notre liste, nous avons donc bon, Enfin, Suzuka et la Corée s'est pris. On a quelqu'un qui est disponible pour l'un des trois derniers Grands Prix. Donc, la place du Grand Prix d'Inde est libre. Et puis, on peut s'arranger pour les autres Grands Prix en fonction de notre invité qui est en attente. Voilà. Donc, si vous avez envie d'être candidat, c'est contact@savf1.fr. Voilà. Dépêchez-vous. Il ne reste donc plus que trois places à saisir.
Allez. On vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne continuation jusqu'à la semaine prochaine. On vous dit ciao, et comme d'habitude, on vous laisse sur ces quelques mots de poésie.
Alors Sylvie, non, je vais même pas te laisser le choix, je vais laisser le choix à Zaleu. Ce sont deux citations que j'ai trouvées comme ça sur Internet. Alors Zaleu, je te laisse le choix entre Pierre Véron dans Le Carnaval du Dictionnaire ou Frédéric Becbédé dans Mémoire d'un jeune homme dérangé.
Le premier.
Alors, nous allons donc finir cette émission, qui était l'émission diurne pour nous, mais nocturne pour l'AF1, par cette citation de Pierre Véron dans Le Carnaval du Dictionnaire, qui définissait ainsi la nuit, temps qu'on peut également consacrer au sommeil.